Donc je vous présente ce soir André Braic, comme j'aurais dû dire qu'on ne présente plus, mais je le présente quand même, en disant qu'il est né en 1942, qu'il est docteur en doctoresse sciences. Non, c'est important, nous donnons toujours la date de naissance. C'est très important pour situer les gens. 1942, mais... Oh, vous savez, il y a pire. Donc, il est docteur en sciences, il est actuellement professeur d'astrophysique à l'Université Paris 7 et directeur du laboratoire Gamma Gravitation au commissariat à l'énergie atomique, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un centre de recherche éminemment important, et pas seulement un commissariat à l'énergie atomique. Il est spécialiste des petits corps du système solaire, de leur dynamique, de l'observation des anneaux de Saturne. Il a même contribué à la découverte de ces anneaux, de même qu'il a contribué de certains de ces anneaux, de même qu'il a contribué aussi à la découverte de nouveaux satellites autour de Saturne. Il est spécialiste aussi donc de la formation des planètes et des satellites. Il a participé à la conception de la mission Voyager et maintenant de la mission Cassini-Huygens sur le chemin de Saturne. Ses publications, puisque c'est ce que vous nous demandez souvent, Conversation dans l'univers, Albin Michel, 1986, Les comètes, que sais-je, en 1993, dans un ouvrage collectif chez Vuibert, Sciences de la Terre et de l'Univers, une somme de savoir. Et enfin, 1999, Enfant du Soleil aux éditions Odile Jacob. Alors, je lui laisse la parole pour quelque chose comme 50 minutes autour. Et ensuite, vos questions. Et merci.
Je me permets juste de faire une petite mise au point, puisque, comme vous le savez, les anneaux de Saturne ont été découverts en 1610, donc je ne suis pas aussi vieux que ça. Donc Et alors, un second point, me sens très jeune ce soir, parce que je suis censé faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est qu'il paraît qu'il faut faire une conférence en 50 minutes, je suis totalement incapable. Alors peut-être qu'on fera 50 minutes, on fera une fausse fin, puis on jouera les prolongations entre nous après, éventuellement. Il ne faut pas que je dépasse un espace dessiné ici pour des caméras, et il ne faut pas que je regarde au-delà d'un certain niveau. Pourtant, il y a deux dames superbes, mais je ne vous regarderai pas, désolé, parce qu'il paraît que ce n'est pas bien pour la caméra. Donc, je suis limité dans le temps et dans l'espace, et donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je ne vous raconterai pas de blagues, je serai très sérieux, ça serait très ennuyeux, mais peut-être qu'après, on pourra se défouler et se détendre, si vous le souhaitez. Enfin, moi, je suis disponible jusqu'à l'heure que vous voulez cette nuit. Alors, donc le sujet, c'est le système solaire. Alors, système solaire en 50 minutes, c'est impossible. C'est beaucoup trop long. Je pourrais essayer de parler très très vite, je peux faire un effort, mais je ne suis pas sûr que ça irait. Vous pourriez me repasser en 78 tours, doucement. Alors bon, il y a deux manières de traiter ça. Une manière, c'est de dire, faisons un beau voyage, mettons-nous à la fenêtre de l'autocar, regardons des paysages. C'en est une, on en verra quelques-uns. Moi, j'ai plutôt envie, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, d'essayer de traiter, finalement, comment on s'y est pris pour explorer le système solaire. C'est récent. Pourquoi on l'a fait et à quoi ça sert? Et je ne vous cacherai pas que je pense que ce que nous faisons en ce moment, c'est fondamental. Pourquoi fondamental? Je vais essayer de vous le dire en quelques instants. Donc en gros, ce que signifie l'exploration du système solaire, je dirais c'est un regard sur notre passé, nos origines, et un regard sur notre futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer sur Terre dans quelques temps. Peu de temps ou plus de temps, on verra peut-être ensemble. Donc ce que j'aimerais essayer de voir avec vous, c'est comment ça s'est passé, pourquoi cette explosion de connaissances subite, et surtout comment on s'y est pris. Parce qu'on ne s'y prend pas tout à fait n'importe comment, et ce n'est pas, comme certains pourraient l'imaginer, quelques penseurs profonds qui, s'isolant dans un laboratoire isolé, eh bien, se mettent comme ceci, comme le sculpteur l'a si bien fait, et pensent et découvrent comment ça s'est passé. Ce n'est pas tout à fait ça. Alors d'abord, un petit clin d'œil. Souvenez-vous, nous sommes en 1890. On croit qu'on a tout compris. Il y a la gravitation de Newton, il y a la machine à vapeur, la thermodynamique, l'électricité, c'est l'industrie de demain. On a tout compris, sauf quelques petits détails. Mercure ne tourne pas tout à fait comme on le pensait autour du Soleil. Et puis la Lune, une petite chose qu'on n'a pas bien comprise. Mais ça y est, le siècle qui va se présenter est extraordinaire. Et la science, c'est presque fini. C'est le positivisme, etc. Au début du XXe siècle, c'était le bouleversement en physique, relativité générale, mécanique quantique, en chimie, en mathématiques, des bouleversements énormes. Et en fin du XXe siècle, les bouleversements, ils sont en biologie, en sciences de la Terre, en sciences de l'univers. Notre conception de l'homme, notre conception de l'univers a totalement changé. Tellement que les spécialistes eux-mêmes n'ont pas de recul, et je ne parle pas maintenant de, comment dirais-je, dans le grand public, puisqu'à l'école, vous savez que les programmes s'adaptent, mais généralement 150 ans plus tard, donc dans 2100, ça sera enseigné. Et quant aux moyens audiovisuels, on cherche le spectaculaire, souvent faux, et en général annoncé par une nouvelle de la NASA quand il y a des besoins budgétaires. Alors pour faire une synthèse de tout ça, ce n'est pas forcément facile. Donc en gros, cette exploration du système solaire toute nouvelle, elle ressemble un peu à l'aventure de Christophe Colomb il y a 5 siècles. À l'époque, personne n'en parlait, la télévision de l'époque n'en parlait pas. Et pourtant, ça allait changer notre vie. Je crois que ce qui se passe en ce moment va changer l'histoire de l'homme, pas tout de suite, mais dans quelques dizaines d'années, dans quelques siècles. Alors, et finalement, la question fondamentale qui est posée, c'est la place de l'homme dans l'univers. Je crois qu'on ne peut pas faire de science sans réfléchir sur ce qu'elle signifie, mais on ne peut pas non plus faire de philosophie sans connaître la science. Et souvent, hélas, il y a un dialogue qui n'est pas forcément facile, compte tenu du fait que stupidement à l'école, on sépare les littéraires et les scientifiques, alors que pour moi, c'est finalement la même chose. C'est-à-dire que c'est l'imagination d'abord, la technique, évidemment, c'est autre chose. Alors à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Le premier but est culturel. Ne pas savoir dans quel univers on est, dans quelle place on a, quelle est la place de l'homme dans l'univers, c'est aussi stupide que de ne pas connaître quoi que ce soit à la musique, à la sculpture, à la peinture, à l'histoire, à la géographie, que sais-je. Donc c'est un élément de culture essentiel, et c'est un élément que tous les hommes devraient avoir. Deuxième argument, c'est un laboratoire qui est gratuit. Je veux dire par là, dans le laboratoire terrestre, on essaie de donner des conditions extrêmes à la matière, extrêmes en température, en pression, en densité, très haute, très basse. Eh bien, dans l'univers en général, dans le système solaire en particulier, nous avons là des conditions qu'on ne pourra jamais reproduire sur Terre, parce qu'on n'aura jamais les instruments qui seront assez puissants pour. Donc nous étudions la matière sous des conditions extrêmes, ultimes, différentes, et donc nous connaissons mieux la structure de la matière, et donc on peut espérer mieux la maîtriser. L'autre intérêt aussi, il est industriel et économique, on en parle très peu, mais vous savez qu'en ce moment, il y a un combat féroce entre, d'une part, les agences spatiales japonaises, européennes et américaines, et ce qui est en jeu, pour dire naïvement, c'est la conquête du monde, mais ceux qui domineront cette industrie, eh bien, ce sont ceux qui domineront le monde de demain. Et sous des apparences d'alliance et de situations bonnes, c'est en fait un combat très difficile. Mais après tout, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est un combat difficile? Parce que quand vous lancez une sonde, il n'y a pas de garagiste sur la route pour la réparer, donc il faut que ce soit fiable, et qui dit fiabilité dit des techniques de pointe. Et après tout, les industriels qui font cela, ce sont souvent les mêmes que ceux qui font l'armement et autres. Et même si une sonde spatiale n'est pas toujours gratuite, Cassini dont nous parlions, c'est quand même 4 millions de dollars, c'est-à-dire 27 milliards, 4 milliards de dollars, c'est-à-dire 27 milliards de francs. Mais après tout, même si c'est quelquefois aussi cher qu'une partie qu'un sous-marin nucléaire ou qu'un porte-avions nucléaire, c'est à mon avis plus utile, plus amusant et moins dangereux surtout. Donc, à mon avis, les intérêts sont essentiels. Alors, maintenant, l'intérêt pour nous, il est fondamental, c'est la connaissance de la Terre. Pourquoi ? Connaître la Terre, eh bien, le seul moyen de la connaître, en fait, ça serait d'expérimenter sur elle, comme le fait le physicien dans son laboratoire. C'est-à-dire, il faudrait la couper en deux, la secouer, changer sa composition, la bombarder, puis regarder comment ça se passe. Alors, heureusement pour nous, il y a peut-être des gens qui seraient assez fous pour le faire, mais on ne fait pas ça. Mais ce n'est pas la peine. Il suffit d'aller se promener dans le système solaire, et là, nous trouvons des mondes qui sont plus massifs, d'autres qui sont plus petits, d'autres qui sont plus chauds, d'autres qui sont plus froids, d'autres qui sont plus denses, etc. Et en comparant chacun de ces mondes, nous voyons le rôle de chacun des facteurs physiques. Et donc, regarder le système solaire, c'est finalement mieux connaître notre Terre. Vous savez, c'est toujours le même problème. Dans la vie, quand vous avez un problème, ce n'est pas en vous mettant le nez dessus que vous le résolvez, c'est en prenant du recul. Prendre du recul, c'est faire de l'astronomie. Donc voilà, hein. Donc mieux connaître la Terre. Et si vous êtes écologiste, vous aimez l'environnement, c'est aller faire de l'astronomie. Et c'est regarder la Terre avec un certain regard. Et là, il y a un champ de connaissances absolument extraordinaire. Si on me disait, ça fait 50 minutes, votre conférence va s'arrêter, il faudrait que je résume. Alors, mon résumé de ma conférence sera en deux mots. Le système solaire, c'est quoi? Retenez le mot diversité. C'est une fantastique diversité. C'est beaucoup plus divers qu'on l'imaginait auparavant. Quand j'étais jeune, il y a de très très nombreuses années, je me souviens, à la mission Voyager, nous essayions de prédire la veille, enfin une semaine avant la rencontre, ce qu'on allait voir. Eh bien, je peux vous dire qu'on se trompait tout le temps. Alors, on pariait en général, c'est-à-dire celui qui perdait, il payait un bon repas aux autres. Eh bien, je peux vous dire qu'on a beaucoup mangé dans de bons restaurants. Eh bien, ça veut dire que la nature a plus d'imagination que les plus imaginatifs des astrophysiciens. Et cette diversité, elle est bien placée. Parce que si aucun objet ne se ressemblait, nous n'y comprendrions rien. Mais par contre, il y a des choses qui se ressemblent et puis des choses différentes. Et c'est ça qui nous permet de faire cette étude comparée. Donc, le maître mot, c'est diversité. Et enfin, quant à la question de nos origines, puisque c'est un des fondements de cette recherche, une des raisons pour lesquelles nous faisons cette quête, si vous me demandez quelles sont nos origines, et si je dois vous le dire en quelques mots, je vous dirai, et j'aimerais que vous reteniez ça, donc, comme résumé de cette conférence, c'est « on ne sait pas ». Alors, simplement, ce qu'on sait, on sait comment ça ne s'est pas passé. Mais on a encore des doutes. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose de fondamental en science, c'est que, en quelque sorte, On sait ce qui ne marche pas, et pourtant beaucoup de choses ont été annoncées dans ce sens-là, mais je vais en dire quelques mots. Donc avec tout ça, je vous dis c'est merveilleux, demain on connaîtra mieux la Terre, le système solaire c'est extraordinaire, vous allez me dire, mais tout va bien, tout va très bien, tout va pas si bien en fait. Parce que moi je vois quelques nuages, et c'est une des raisons pour laquelle je vous fais cette longue introduction malgré le temps, c'est que premièrement, il y a un certain rejet de certaines attitudes scientifiques dans la population. Dans le monde entier, il y a moins d'étudiants en sciences. Il y a des gens qui croient que tous nos malheurs, pollution, etc., viennent de la science. Et il y a souvent une attitude irrationnelle qui vient de la science. Il y a même des hôpitaux qui ont enlevé le mot nucléaire, vous savez, quand on veut soigner le cancer et autres, parce que ça fait peur aux gens, paraît-il. Bon, je veux dire, la radioactivité fait peur aux gens, alors que s'il n'y avait pas de radioactivité naturelle dans les roches, si la Terre n'avait pas les quelques degrés de plus qui ont fait que la vie est apparue, on ne serait pas là ce soir pour se rencontrer. Donc il y a beaucoup d'irrationnel dans cela, et je crois qu'il faut essayer de faire comprendre ce que c'est que la science, quelle est sa démarche. Et il faut bien distinguer les grandes questions que l'on se pose, les éléments de réponse qu'on y apporte, les doutes que nous avons, les choses que nous ne connaissons pas, et la technique. La technique, c'est autre chose, ça demande du temps, comme le musicien a sa technique, mais ce qui vous intéresse, ce n'est pas la technique du musicien, c'est le résultat. Alors, premier point, je vous l'ai dit, en science, on peut dire ce qui est faux. Et là, j'insiste beaucoup, parce qu'il y a un mouvement philosophique qui m'effraie un petit peu en ce moment, heureusement, il n'est pas en Europe, il est surtout aux États-Unis. Il y a des philosophes qui prétendent qu'on ne peut pas distinguer le vrai du faux, que tout est illusion. Généralement, quand je les rencontre, moi, et qu'on s'assoit pour un débat, je leur retire la chaise. Alors, ils s'assoient par terre, ils ont mal, et je dis, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une illusion. Mais, donc, c'est tout ça pour vous dire qu'on peut distinguer le vrai du faux. Exactement, une proposition dont on peut démontrer qu'elle est fausse est une proposition scientifique, est une proposition qui peut être scientifique. Une proposition dont on ne peut pas démontrer qu'elle est fausse n'est pas une proposition scientifique. Alors, comment on s'y prend? Quelle est notre démarche? Eh bien, notre démarche, elle est hérite. Elle est héritée, je dirais, d'une longue histoire, et en résumant de manière extrêmement schématique, elle est héritée, je dirais, d'une part des Grecs qui nous ont légué la pensée rationnelle. En gros, toute cause a un effet, tout effet a une cause, donc la réflexion. Alors les Grecs, ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Simplement, ils avaient beaucoup d'esclaves, et quand on a des esclaves, on ne fait pas la vaisselle le soir, donc on pense au monde. Donc la pensée rationnelle, d'une part, et d'autre part, l'observation. Et ça, c'est plutôt le Moyen-Âge qui nous l'a légué. Les Grecs disant « nos dieux sont imparfaits, il ne faut pas observer, la pensée est supérieure à l'observation », le Moyen-Âge disant « Dieu est parfait bon, », tout ceci, tous ces tâtonnements qu'on a eus dans le passé ont conduit à la renaissance scientifique qui montre que observation, théorie vont de pair. Et finalement, si je résumais de manière extrêmement naïve et simple notre démarche, c'est un peu celle du détective. Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé, nous essayons de comprendre le monde, donc nous recueillons des indices et avec ces indices, on fait une théorie. Et ensuite, on confronte cette théorie à l'observation. J'ai une histoire. Madame la marquise a été assassinée. Est-ce que c'est un vagabond de passage? Est-ce que c'est le gardien qui avait trop bu? Est-ce que c'est un amant jaloux? Est-ce que c'est le petit neveu qui veut hériter? Le policier, il ne sait pas. Alors il prend des indices, un cheveu, une trace, une sang, une empreinte, que sais-je, et avec ça, il construit un scénario. C'est ce que nous faisons quand nous essayons de comprendre l'origine de notre système solaire, l'origine de la Terre. Voilà notre démarche. Et avec cela, nous savons ce qui est faux parce qu'il y a des indices qui sont totalement contradictoires avec certaines hypothèses, théories ou tentatives, et nous essayons pour l'instant, et c'est ça le grand progrès des dernières années, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'homme, depuis environ une dizaine d'années, il y a un certain consensus de par les astronomes sur les grandes étapes du scénario. Il y a des accords sur certains passages, un consensus sur les grandes étapes. Donc je vais essayer de vous donner quelques faits, et puis ensuite d'interpréter, et puis de toute manière on sera arrêté par le temps, mais je vous ai déjà donné le résumé. Alors, qu'en ce qui concerne la question de nos origines, eh bien, c'est un grand débat qui a des millénaires. C'est la grande question de création ou éternité. Alors, il y a 3000 ans, certains disaient « le monde a été créé ». D'autres disaient « non, on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien ». Donc, le monde se transforme. Alors, dans ce grand débat, il y en a un qui vient de sortir de 800 pages en anglais qui est passionnant sur le sujet. Bon, je ne vais pas détailler ça. En gros, le débat a fleuri en gros au Moyen-Âge. Là, on est en 1277, où la meilleure université du monde à l'époque, c'est celle de Paris. Vous voyez qu'on a une longue tradition. Et là, au Moyen-Âge, les textes grecs qui avaient été traduits en araméen, en arabe, qui étaient en latin, etc., étaient revenus au Moyen-Âge. Et il y avait une contradiction évidente entre les textes d'Aristote, disant « le monde se transforme », résumer les connaissances de son temps, lui, et la Genèse qui disait « le monde a été créé ». D'où un grand débat, l'Église a tranché, comme pour Darwin et comme pour Copernic, pas forcément dans le bon sens, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et du coup, comment tout ça est né? Eh bien, la question de nos origines a toujours été considérée comme une question fondamentale par les hommes. Quand on vivait dans des tribus, le mythe de la tribu était le ciment de la tribu, et celui qui n'adhérait pas au mythe était exclu de la tribu, ou bien était l'ennemi. Donc ce mythe était un ciment et on a inventé toute une mythologie extraordinaire. Quand vous regardez ces traditions orales, elles sont merveilleuses, pleines de poésie. Un petit peu plus tard, à l'époque du monodéisme, eh bien, il y a eu des grands livres sacrés, qui soient la Genèse, le Coran, le Talmud, enfin différentes religions, qui vous donnent l'origine du monde. Un petit peu plus tard, quand on est un monde plus récent, il y a deux théories qui s'opposent pour l'origine du monde, il y a la théorie française et la théorie anglaise. À l'époque, la France et l'Angleterre sont les deux premiers pays du monde. Alors les Anglais vous disent qu'on a arraché un petit filament de matière au Soleil qui, en se refroidissant, a donné la planète. Entre parenthèses, ça a quelques conséquences philosophiques parce que ça veut dire dans ce cas-là, c'est un événement si rare que nous devons être seuls dans l'univers ou dans un voisinage proche. Et les Français vous disent que c'est une nébulosité qui s'est aplatie, dont le centre donne le Soleil, la périphérie vous donne des planètes. Bon, dans ce débat qui a duré 150 ans, il se trouve que dans cette affaire, c'est les Français qui avaient raison. Donc là, il faut le dire quand même. Et puis, un peu plus récemment, entre 1945 et 1990, il y avait deux théories, la théorie américaine et la théorie soviétique. Comme par hasard, c'est ceux qui dominaient le monde à l'époque. Et les uns disaient, il y a des petits corps qui se cognent et qui croissent en dimension, et tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il croit à la même taille, égalité totale. Et d'autres disaient, non, il y en a un qui mange tout le monde et qui prend le pouvoir. Je vous laisse deviner quels étaient les Américains et les Soviétiques dans cette affaire. Et on n'est pas encore, on hésite encore pour qu'il y ait raison. Mais bon, alors donc, nous, ce qu'on essaie de faire, eh bien, c'est de recueillir tout ça. Alors pourquoi? Pourquoi tout a changé en 1980, 1985, etc. Bon, pour un tas de raisons, mais en résumant en deux mots. En deux mots, on a regardé l'univers dans toutes les longueurs d'onde. Ce que nous recevons comme information de l'extérieur, c'est non seulement la lumière visible qui frappe nos yeux et que nous détectons, mais c'est le rayonnement radio, le rayonnement ultraviolet, le rayonnement infrarouge, le rayonnement gamma, le rayonnement X. Et tout ça nous donne une somme de connaissances auxquelles nous n'avions pas accès auparavant, parce que l'atmosphère limite, heureusement pour nous, les rayons X, gamma et autres sont arrêtés, et donc les rayons ultraviolets, et donc nous avons cette connaissance en allant au-dessus de l'atmosphère, en envoyant des sondes spatiales. Et donc, brutalement, l'image que je donne souvent, c'est celle d'un enfant qui, à la naissance, à qui on aurait mis des lunettes vertes, et puis qui, brutalement, il aurait vu le monde en vert. Il aurait vu les feuilles des arbres, mais pas les troncs. Il aurait vu les dames habillées en vert, mais pas celles habillées en rouge. Il aurait vu ceux qui ont les cheveux verts, il y en a moins remarqué avec les yeux verts, mais il n'aurait pas vu les autres. Et puis un beau jour, on lui aurait dit à 12 ans, on te retire tes lunettes, tu vas voir le monde, et il aurait vu qu'il y a des troncs aux arbres, qu'il y a des gens qui sont habillés en marron ou en bleu, et il aurait trouvé un monde beaucoup plus riche que ce qu'il avait imaginé jusque-là. C'est exactement ce qui arrive aux astronomes actuellement. Et deuxième argument, deuxième chose, nous allons sur place. C'est-à-dire ces planètes qui jusqu'à présent étaient des points de lumière dans le ciel, dont nous étudions le mouvement, et la question du mouvement, elle nous a occupés pendant plus de 2000 ans, pour savoir si la Terre était au centre ou pas au centre, ces planètes sont devenues des mondes à part entière, avec des falaises, des montagnes, des vallées, des geysers, des volcans, et des paysages qui, entre nous, font augurer. Si vous voulez investir un peu d'argent maintenant, moi je vous conseille d'investir dans des agences de voyage. Parce que les voyages de demain dans le système solaire, ça sera autre chose que sur Terre. Le canyon Valéry-Meyrinéris sur Mars, par exemple, c'est 5000 km de longueur, c'est 150 km de large, 7 km de profondeur. Ça, c'est du canyon, je veux dire, c'est pas le Verdon. Vous voyez, les geysers sur Triton, vous avez des geysers. Bon, vous allez en Islande, les geysers, ça fait 20 mètres. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Sur Triton, le geyser, il fait 8 km. Bon, ça, c'est impressionnant. Sur Miranda, vous avez une falaise, vous êtes au bord de la falaise et vous regardez ce qui se passe en bas, 27 km. Donc là, il faut pas avoir le vertige. Vous voyez, donc, les voyages de demain seront extraordinaires, avec une diversité extraordinaire qu'on n'imagine même pas. Mais revenons-en, si vous voulez, à notre propos. Donc, alors, pour l'origine du système solaire. Alors, je regarde, il n'y a pas tout à fait 50 minutes encore. Alors déjà, résumer la conférence. Non, ça, c'est pas... Alors, un petit mot, un petit dessin. Deux dames à la préhistoire. Vous voyez, il y a la dame qui dit à la précédente, un jour, l'homme ira dans la Lune. Hein. La deuxième lui dit, bon, ah, en portugais. Et la première lui dit, et pendant ce temps-là, nous prendrons le pouvoir. Eh bien, écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à la fin du XXe siècle, on a été dans la Lune et les femmes ont enfin la place qu'elles méritent dans la société. Et d'ailleurs, je dirais que sur Terre, les pays dans lesquels on ne fait pas d'astronomie, eh bien, les femmes n'ont pas le rôle qu'elles méritent. Là aussi, c'est... Et l'autre petit point, deux petits dessins, parce qu'il faut être sérieux, on a très peu de temps. Donc l'autre petit point, c'est la question fondamentale. Il y a un petit angelot qui dit « former le soleil, une étoile ». Bon, ça c'est facile, j'ai qu'à condenser de la matière. Eh bien, dans sa serre de cuisine, il dit « je l'ai bien étalé, mais il y a des grumeaux ». Autrement dit, est-ce que la Terre et les planètes, ce sont des grumeaux et c'est un loupé de la nature? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes un monstre? Est-ce que nous sommes uniques dans le monde? Ou au contraire, est-ce qu'on est un sous-produit naturel de la fabrication des étoiles? Franchement, on ne sait pas encore. Moi, j'ai une opinion, je pense qu'on est plutôt un sous-produit naturel, des planètes qu'il y en a partout, mais nous n'en savons rien pour l'instant. J'en dirai peut-être deux mots tout à l'heure. Alors, donc, quelques mots. Alors, attends, je vais déjà sauter beaucoup de choses, hein, beaucoup de transparents. Oui. Ah, tenez, la forme de la Terre. Comme c'est une amie dont j'étais très amoureux quand j'étais jeune, il y a longtemps, qui a fait ça, c'est un document récent. Et voici la forme de la Terre en exagérant en dimension radiale. Vous avez 20 km de plus dans la direction équatoriale que polaire. Et vous voyez cette Terre qui a une forme, là c'est creux, là c'est plus, comment dirais-je, plus en relief. Et nous connaissons mieux la Terre simplement qu'à partir du moment où on a mis des satellites autour d'elle. Bon, attendez, là je passe rapidement. Alors un petit clin d'œil aussi. Tenez, on parle beaucoup de la vie. La vie, c'est pas autre chose qu'une toute petite couche. C'est-à-dire que sous la Terre, ceux qui connaissent, enfin, que je sais qu'un mineur de fond est un métier épouvantable, donc on ne va pas très loin sous la Terre, et en altitude, on ne va pas très loin non plus. Donc c'est une mince petite couche qu'on appelle la biosphère. Est-ce qu'il y a ailleurs des petites couches semblables? Tenez, regardez sur Titan, voilà notre endroit, un satellite de Saturne, une atmosphère d'azote, comme sur Terre, une pression pareille au sol, et il y a aussi une mince couche, ce n'est pas la même, mais on est à la recherche de ces biosphères, c'est encore un peu tôt pour les avoir, mais c'est ce que nous sommes en train de chercher. Pour illustrer mon propos sur les différentes longueurs d'onde, regardez ici la nébuleuse du crabe, qui est une étoile qui a explosé. C'est comme ça qu'une étoile communique des atomes à l'extérieur. La voici en ultraviolet, la voici en rayonnement optique, la voici en rayons X, la voici en infrarouge, la voici en radio. Je ne détaille pas, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais simplement je veux illustrer le propos que le même objet, vu en différentes couleurs, en quelque sorte en différentes longueurs d'onde, n'a pas le même aspect et donc nous donne des renseignements physiques extrêmement précieux. Dans cette introduction générale, un petit clin d'œil, c'est un exemple de couple d'étoiles. Là, 80% des étoiles dans l'univers sont des couples, sont doubles. Le Soleil est un des rares célibataires. Là aussi, on doit y penser quand on veut penser à d'autres systèmes solaires. En général, les étoiles vivent en couple souvent. Et bon, ça, c'est une leçon que j'en ai aux étudiants et qui ne valable que pour l'astronomie. C'est qu'en gros, un couple, dans un couple, il y en a toujours un qui mange l'autre. Bon, ça, c'est les étoiles. Hein. Et on ne forme un couple ou on le défait que s'il y a un troisième corps qui intervient. Bon, ça, c'est pour l'astronomie uniquement. Hein. Mais c'est deux leçons que... Et alors, un petit clin d'œil toujours. Un petit clin d'œil, nous étions à la Saint-Valentin. On était au mois de février. La sonde NIR allait survoler un astéroïde, chose amusante, qui s'appelait Eros. Donc survoler Eros le jour de Saint-Valentin, c'est pas mal. Et voilà la photo qui a été prise. Photo réelle, hein, c'est pas un dessin. Voilà donc Eros, objet d'environ 50 km. Vous avez un cratère ici, il y a eu deux cratères. Regardez ce cratère, il a une petite forme de cœur. Donc voilà ce que les astronomes nous ont livré. Eh bien, c'est un petit clin d'œil pour l'astronomie. C'est qu'elle est faite, je crois, à quelques sentiments. Et voilà la photo d'Eros, donc qui date du mois de février. Et voici, si vous voulez faire un pèlerinage quelque part, une vue de la Lune. C'est la sonde lunaire qu'on a fait s'écraser, la sonde lunaire Prospector qu'on a fait s'écraser près du pôle sud de la Lune. Vous voyez, l'échelle est de 50 km. Et à bord de cette sonde, on avait mis les cendres de June Shoemaker, qui est un astronome, un très bon collègue, qui est là, s'est décédé il y a 3 ans avec son voiture, et qui a passé sa vie à chercher des cratères d'impact sur la Terre. Et il a ses cendres placées dans cette sonde, et maintenant, ces cendres sont ici. Donc, si vous y allez, pôle sud, vous partez à droite. Donc, voici un lieu de pèlerinage, si vous voulez. Et certains jettent leurs cendres à la mer, les astronomes mettent sur la Lune. C'est... Eh bien, les collisions, puisque j'en parlais, en voici une. On est près du Mexique. On a là un cratère qui est énorme, qui fait plus de 60 km de dimension, qui est tombé il y a 70 millions d'années. Et c'est l'époque où certains prétendent que c'est à cause de ça que les dinosaures sont morts. Bon, je ne sais pas si les dinosaures sont morts parce qu'il y a eu un impact violent dont voici la trace, ou parce qu'un volcanisme gigantesque qui était dans le Deccan du côté des Indes, qui a effectivement existé, en est la cause, ou parce que la bête était si grosse avec un petit cerveau, et quand on lui mordait la queue, le temps qu'il ait l'information, mais je ne sais pas. Hein. Mais tout ça pour vous dire que l'astronomie et l'exploration ont beaucoup d'applications sur Terre. Voici un exemple qui vous paraît tout bête. Voici la meilleure carte de l'Antarctique que nous ayons. La résolution ici n'est pas extraordinaire, mais les données complètes sont très bonnes. Faire une carte de l'Antarctique, ce n'est pas commode. C'est un endroit où on ne se promène pas facilement, c'est inhospitalier. Eh bien, on a fait une carte radar à très haute résolution. Là, c'est juste un résumé de cette carte. Et la meilleure connaissance qu'on ait de ce continent qui est important, on l'a fait par les techniques d'exploration des planètes. En voici un exemple. Un autre exemple, et je prends un exemple très divers, on se pose des problèmes quant au transfert entre l'Afrique et l'Amérique. Eh bien, regardez ici un nuage de poussière, toujours observé avec les techniques spatiales. Vous avez ici l'Espagne, vous avez la France qui est ici, vous avez l'Afrique, et voici un nuage de poussière qui a franchi une partie de l'Atlantique, qui, par nos techniques, donc, permettent de mesurer tout ça. Tout ça pour vous dire que quand nous explorons le système solaire, nous sommes au cœur des problèmes qui concernent la Terre. Clin d'œil, c'est un autre sujet. Voilà la couche d'ozone, le 1er octobre 1998. La voici le 1er octobre, le 3 octobre 1999. Un an d'intervalle, ça a changé. C'est important pour nous, parce que s'il n'y a plus d'ozone, ça veut dire que les cancers peuvent être plus importants, ça veut dire qu'on en connaît mal les causes. Et donc, j'ai tout mélangé. Petit éclairage, voici le sol d'Europe. On ne voit pas très bien, la résolution n'est pas très très bonne. Mais là, on a un sol qui est de la glace, qui ressemble beaucoup à ce foyer d'avion. Quand vous volez entre Paris et Los Angeles au printemps, vous essayez à droite de l'appareil, près de la fenêtre, et vous voyez le... À ce moment-là, ils mettent un film et ils ferment les rideaux. Il faut dire non, il faut laisser les trucs ouverts, il faut demander à tout le monde de regarder. Vous avez des vues superbes sur le Groenland, et vous voyez qu'il y a des glaciers qui se jettent et des paysages assez semblables à ce qu'il y a sur Europe. Et ce qui est intéressant sur Europe, c'est que sous la glace, on est persuadé maintenant qu'il y a de l'eau liquide. C'est-à-dire qu'il y a des poissons, il y a un pas que je ne franchirai pas. Mais dans ce satellite de Jupiter, il y a beaucoup de choses fort intéressantes à voir. Et quand je parlais de bombardement, regardez sur Ganymède, toujours satellite de Jupiter, un bombardement, vous voyez ce qui a dû se passer, qui a dû être très violent. Et je crois qu'il y a quelques jours, le volcan de Fournaise à La Réunion s'est rallumé. Voici un volcan sur Jupiter. Vous avez un volcan satellite de Jupiter. Vous avez un volcan qui fait environ 3 km de haut, un peu comme à Hawaï, une coulée de lave et des paysages tels que vous les voyez sur Terre. Bon, je vois que les reproductions comme ça ne sont pas les meilleures, donc ce qu'on va faire, on va passer aux diapositives. Alors attendez, on m'a dit d'appuyer, ça marche. J'appuie sur... Alors, est-ce que je prends la première diapo? Ah d'accord. Bon, alors, un clin d'œil. Je vous montre. Le problème, c'est qu'il y a de la lumière, et les diapos, moi, je les vois très ternes. Alors, imaginez que ces diapos sont très lumineuses, hein, donc avec un peu d'imagination. Mais c'est vrai qu'éclairer une diapo, ce n'est pas le meilleur moyen de la voir. Donc là, la Terre, si je la montre toujours, c'est que nous sommes la première génération qui a eu le bonheur de voir la Terre comme ça. C'est-à-dire que nous avons pris du recul et nous pouvons la comparer aux autres, elle est plus hospitalière évidemment. Nous comprenons quand on fait quelque chose quelque part, on coupe des arbres en Afrique du Nord il y a 2000 ans avec les Carthaginois et les Romains, ça a des conséquences encore aujourd'hui. On s'attaque à la forêt amazonienne, ça a des conséquences aussi. Donc la Terre est un tout, c'est pas un endroit où on décide des petits pointillés pour se disputer, c'est un tout dont il faut comprendre le fonctionnement. Et vous comprenez qu'au 19e siècle, on étudiait la Terre localement, c'était l'âge d'or de la géologie. Au XXe siècle, on étudie la Terre comme un ensemble, c'est-à-dire c'est chaud au centre, froid à la périphérie, d'où des mouvements horizontaux aussi importants que les mouvements verticaux. Et au XXIe siècle, on étudiera la Terre par comparaison avec les autres planètes. D'ailleurs, regardez le clin d'œil qu'on peut faire. Quand on a nommé un ministre de l'Éducation au XIXe siècle, on prenait un géologue. Au XXe siècle, un géophysicien. Quand on change de siècle, on change de ministre. Et puis au XXIe siècle, ça sera peut-être un planétologue comparé. Bon, alors, prochaine diapositive. Donc là, le rêve de nos ancêtres était de voyager dans les planètes. Ce rêve est devenu réalité, bon, avec une technique légèrement différente, c'est un dessin de Granville, et nous explorons enfin les planètes, ce qui est la grande aventure de cette fin du XXe siècle. Prochaine diapositive. Alors, comment on s'y prend? On met des satellites au-delà de l'atmosphère, ça c'est un vieux satellite qui s'appelle IRAS, qui observe le monde en infrarouge, qui est au-delà de l'atmosphère, qui reçoit ces rayonnements qui n'arrivent pas jusqu'à Terre et que nos yeux ne peuvent pas saisir. Prochaine diapositive. Ou alors, on va sur place, on fait un voyage, voici la sonde Voyager, voici une maquette de cette sonde, à grandeur réelle, avec les chaises à côté. Vous avez une antenne en permanence pointée vers la Terre, où vous avez du plutonium qui sert évidemment à donner de la chaleur, qui donne de l'électricité, qui fait marcher la sonde, où vous avez les instruments, il y en a 13 ici, avec un instrument infrarouge ultraviolet, particules chargées, particules par haute énergie, basse énergie, photographie à grand champ ou à téléobjectif, des antennes électriques de 12 mètres de long ici, un magnétomètre qui mesure le champ magnétique, donc voilà l'ensemble des instruments, et le corps de la sonde ici, contenant du carburant pour faire quelques corrections de trajectoire. Et sur le corps de la sonde, une plaque d'immatriculation, comme tout véhicule en règle, hein, qui, au cas où je ne sais quel archéologue du futur découvrirait cet engin primitif dans quelques milliards d'années, eh bien on lui dit, explique en gros où on est, Soleil par rapport au pulsar voisin, qu'on habite la troisième machin à côté du Soleil, qu'on a telle taille par rapport à la sonde, que pour se reproduire, on s'y met en gros à deux, enfin quelques éléments de base, hein, pour leur donner. Et certains ont dit, vous êtes fous, enfin, fallait faire ça, ils sauront où on est. Bon, enfin, le temps que ça arrive. Et si vous ouvrez ça, eh bien vous avez de la musique, il y a du Bach, du Beethoven, du Mozart, du jazz, de la musique africaine, etc. Vous avez bonjour en 150 langages terrestres, y compris l'auvergnat, le corse, le breton, le basque, etc. Et vous avez un message du président Carter, qui était pouvoir à l'époque. Et vous avez 120 photos de la Terre. D'ailleurs, il y a un livre qui résume ceci, que je vous conseille de regarder. Mais si vous, on vous donnait le choix de choisir 120 photos pour caractériser la Terre, que choisiriez-vous? Donc c'est le métier que mes collègues astronomes ont fait. Et bon, on a pris un embouteillage dans une grande ville à 6h du soir, que j'ai eu tout à l'heure, là, bon ben. Et puis un embouteillage à la même heure près d'un point d'eau en Afrique, donc une nature un peu différente. On a représenté un squelette humain pour leur dire, ben, ils vont comprendre quelle gravité il y a, comment on résiste. Et on a eu un problème, on a voulu représenter un homme et une femme, et on s'est dit comment on les met, en costume cravate, en jupette grecque, en costume traditionnel japonais, en habit indien, qu'est-ce qu'on met? Alors on a décidé de mettre sans habit, et immédiatement une réaction très forte de Ligue de Vertu américaine, qui ont déclaré que c'est un scandale que de dépenser l'argent du contribuable américain pour envoyer de la pornographie dans l'espace. Bon, et... Donc, vous voyez, il y a des réticences. Et alors, donc on a eu un travail très difficile qui consistait à choisir sur 10 000 photographies de couples tout nus, quelque chose de neutre. Hein. Et alors... On a pris une photographie avec un monsieur, bon ça je peux pas juger, qui avait l'air sympathique, une dame que je trouve superbe, se tenant par la main gentiment, souriant tous les deux, donc tout allait bien, le monsieur faisait bonjour, etc. Et la Ligue de défense des droits de la femme, on dit, ah, c'est encore le bonhomme qui est en avant. Ouais, trop tard. La sonde est partie. Mais voyez, tout ça pour vous dire qu'en envoyant une sonde, on se pose des questions sur ailleurs, d'autres, le temps, etc. Et c'est dans cette direction que j'aimerais vous pousser. C'est déjà fini? Qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est le... j'ai usé des piles ou... Bon, je sais pas. Et donc, prochaine diapositive. Alors, oui, prochaine diapositive. Alors, le voyage, c'est un voyage des années 70 à 80. En 79, on est arrivé en 89. Prochaine diapositive. Le lancement agréable d'une fusée qui part du bon côté, tout est réussi. C'est le lancement de Voyager, un grand moment d'exploration du système solaire. Prochaine diapositive. La première photo, dommage, on ne la voit pas de manière assez lumineuse, mais la Terre et la Lune. C'était la première fois qu'on photographie les deux à la même distance. Et vous voyez que la Terre et la Lune, ce n'est pas une planète avec un satellite, c'est un système double. La Lune est pratiquement aussi grosse que la Terre, ce qui n'est pas le cas de tous les autres satellites du système solaire qui sont tout petits par rapport à la planète centrale. Ce qui signifie probablement que l'origine du système Terre-Lune est un peu différente. L'origine de la Lune est différente de celle des satellites de Jupiter, de Saturne ou autres. Et le seul analogue qu'on ait dans le système solaire, c'est Pluton et Charon, qui est lui aussi un couple, un système double, comme il y a une étoile double. Prochaine diapositive. Alors, là, 12 ans plus tard, c'est une photo de Neptune et Triton, vue du côté nuit, qu'on ne verra jamais de la Terre, évidemment. Et cette photo n'est pas un montage, c'est vraiment quand la sonde avait fini sa mission, qui était un très grand moment. Et le futur grand moment, c'est Cassini, que nous avons lancé en 1977. Si j'ai le temps, je vous montrerai tout à l'heure le lancement, qui est assez spectaculaire. Et puis, qui arrivera à Saturne en 2004, fin de la mission en 2011, dépouillement jusqu'en 2021. Et après, alors je ne dirai plus ma date de naissance, après on discutera des résultats. Prochaine diapositive. Alors l'autre technique consiste à, vous voyez, le système solaire, premièrement, on survole, deuxièmement, on tourne autour, troisièmement, on se pose, quatrièmement, on rapporte un échantillon, cinquièmement, on envoie des gens avec un drapeau qui plante, bon, ça, c'est une autre histoire, c'est plus la même conférence. Alors ça, c'était la mission Viking, je vous ai parlé de Voyager, Cassini dans le futur, enfin, qui est en train, Viking, c'est les années 70, c'est la mission qui s'est posée sur Mars. Et voici la technique, vous mettez une sonde en orbite autour de Mars, des panneaux solaires qui, donc, comment dirais-je, recueille l'énergie solaire pour le transformer en électricité, une antenne qui est dirigée vers la Terre, une autre vers la sonde, et puis vous lâchez une petite sonde au bout d'un parachute, freinez dans sa descente, et vous regardez au sol s'il y a des hippopotames, des girafes ou des martiens qui font bonjour. Et donc, voici l'idée de la technique des missions que l'on fait maintenant. Alors, cette photo était la photo qui avait été présentée aux sénateurs américains quand on leur a demandé le milliard de dollars que coûtait la mission. Cette photo a une erreur grave, hein, c'est que le ciel n'est pas bleu sur Mars. La densité de l'atmosphère n'est pas suffisante pour que la diffusion en 1 sur lambda 4, lambda étant la longueur d'onde, soit efficace. Il y a en plus un petit peu de fer à la surface, il y a de la poussière, donc c'est un ciel un peu rose. Mais enfin, les sénateurs n'ont pas fait de physique, donc ils ont voté les crédits, très bien. Et voici la technique. Et vous savez qu'aller sur Mars, c'est difficile. Vénus, il y a eu 29 missions vers Vénus, soviétiques et américaines, elles ont toutes réussi. Sur Mars, il y a eu plus de 30 missions, il y a eu seulement 10 succès. Alors, est-ce que les Martiens ont une très bonne défense antiaérienne? Je ne sais pas. Mais une mission sur Mars, eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'a jamais atteint Mars. Une autre mission, on a très bien visé, on s'est écrasé dessus. Une autre mission, on a tourné autour, on s'est posé, bip bip, je suis arrivé, tout le monde content. Puis au bout d'une minute, plus rien. Qu'est-ce qui s'était passé? Un parachute, ben, s'est posé dessus. Hein. Non mais, au prix où ça... On est entre nous, personne ne filme, vous ne répétez pas, mais vous voyez, c'est extrêmement difficile. Et vous savez que les deux dernières missions américaines ont été un échec, et ça c'est extrêmement triste, la dernière mission c'est dommage. Les Américains ont voulu faire better, faster, cheaper, ils ont fait beaucoup moins cher, ils ont fait beaucoup plus vite, mais ils n'ont pas fait mieux. Et l'avant-dernière mission par contre, c'est la seule qui m'a arraché un petit sourire, parce que ces échecs sont extrêmement tristes, mais qui m'a arraché un sourire, c'est que les Américains ont écrit un programme, une industrie a écrit un programme en mètres, et l'autre industrie a écrit un programme en pieds. Évidemment, il n'y a pas eu un problème. Et ça, je voudrais rappeler ce qui s'est passé en 1880, quand il y a une conférence internationale pour décider du choix du méridien de référence. Et les Français disaient méridien de Paris, les Anglais disaient méridien de Greenwich. Dispute à la conférence, passée à Washington, terrain anglo-saxon, on jouait à l'extérieur, tant très bien. On parlait beaucoup anglais. Et donc, les Anglais ont dit, mais 75% de la flotte mondiale se réfère à des cartes qui se réfèrent à Greenwich. Donc choisissons Greenwich plutôt que Paris. Les Français ont dit, on ne peut pas comme ça avoir une défaite, on va trouver un compromis. Et le compromis a été d'accord, nous acceptons le méridien de Greenwich à une condition, c'est que l'Angleterre et les États-Unis adoptent le système métrique. Ils ont dit d'accord, on promet, 1880. Donc moi je propose que nous revenions au méridien de Paris tant qu'ils n'ont pas adopté le système métrique. En tout cas, ça leur a coûté quelques millions de dollars sur Mars. Enfin bon, alors l'émission martienne, ça va être la grande aventure du 21e siècle. Et vous avez compris avec le peu de choses que j'ai dites, c'est que les deux grandes priorités de l'exploration du système solaire vont être Mars, parce que Vénus est très inhospitalier, température au sol 400 degrés, pression 100 atmosphères. Sur Vénus, vous êtes aplati comme une crêpe, mais les vraies crêpes bretonnes, celles qui sont plates. Vous y respirez du gaz carbonique avec un petit peu d'acide sulfurique et chlorhydrique pour donner un peu de goût. Enfin, je veux dire, bon, invivable. Sur Mars, c'est pas beaucoup plus vivable parce qu'en maillot de bain sur Mars, votre sang se met à bouillir, ce qui est pas très agréable. Mais par contre, avec un scaphandre, il y a des choses à faire et ça sera la grande aventure du 20e, 21e, 22e siècle. Et l'autre aventure, c'est les confins du système solaire, comme Cassini et d'autres missions qui exploreront les confins du système solaire. Prochaine diapositive. Alors, voici le système solaire en deux mots. On croyait au 19e siècle que c'était 9 planètes. On en connaissait à l'époque que 8, mais... Et puis le Soleil, voici les tailles relatives. Vous avez 4 objets intéressants, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Pourquoi intéressant? Parce qu'ils ont de l'hydrogène et de l'hélium, qui est l'essentiel de leur composition, comme le Soleil, comme la matière dans l'univers. Ils ont tous les quatre un système d'anneaux. Ils ont tous les quatre un système complet de satellites. J'en connaissais 29 quand j'étais petit à l'école, on en connaît 75 maintenant, et bientôt on en connaîtra 120. Donc des systèmes complets de satellites. Et là, vous avez quatre débris, c'est-à-dire ni hydrogène, ni hélium, ni anneau, ni système de satellites. Pourquoi quatre débris? C'est parce qu'il faisait chaud au moment de la formation, donc les éléments légers sont partis, hydrogène et hélium, et il n'est resté que quelques éléments lourds qui ont ces quatre débris que nous aimons bien, puisqu'on habite le troisième débris en partant de la gauche. Mais conditions de formation, vous comprenez qu'une planète géante ne peut pas être très près de l'étoile Soleil parce qu'au tout début, eh bien, c'est trop chaud. Et ça, c'est un clin d'œil que je donne pour les planètes extrasolaires qu'on trouve maintenant, où ce qu'on trouve n'a rien à voir pour l'instant avec le système solaire. On aura peut-être le temps d'en parler tout à l'heure, et quelquefois la presse va un petit peu trop vite en besogne. Mais prochaine diapositive. Alors, les origines, quand on mettait la Terre au centre, voici un astrolabe arabe, eh bien, la question de l'origine ne se posait pas. Prochaine diapositive, le premier qui a posé les questions d'origine. Alors Kepler a essayé de géométriser le monde, 1610, il imagine les solides parfaits, le cube, le tétraèdre, le dodécaèdre, des sphères inscrites et circonscrites. Bon, ça ne marche pas, mais un sous-produit de ça, c'est les fameuses trois lois de Kepler, qui contiennent les lois de gravitation de Newton, donc un grand progrès, mais son approche ne marche pas. Prochaine diapositive, c'est Descartes, 1644, il invente des tourbillons, et les étoiles se forment au centre des tourbillons, et les planètes dans les tourbillons secondaires. C'est complètement faux, mais c'était le premier qui donne une idée de l'évolution, qui pousse cette idée d'évolution et qui imagine un phénomène physique unique pour former le système solaire. Prochaine diapositive, nous avons l'école anglaise qui imaginait qu'on arrache un filament de matière, je vous l'ai dit, ça ne marche pas. Prochaine diapositive, nous avions l'école française qui imaginait une nébulosité qui se condense, c'est ça qui semble s'être passé. Au centre, on forme une étoile et dans un disque, on forme les planètes. Prochaine diapositive, alors, l'effet. Alors l'effet d'observation, je vais essayer, j'ai un œil, vous voyez, je vais vous paraître un peu bizarre parce que j'ai un œil qui essaie de regarder pas trop et puis l'autre qui regarde la montre. Donc en gros l'effet, je ne vais pas tout citer, quelques-uns. Le système solaire est plat, comme les anneaux de Saturne, vu quand on les voit en gros de la Terre. Prochaine diapositive, les mêmes anneaux de Saturne, mais vu comme on ne verra jamais de la Terre, c'est-à-dire avec, de l'autre côté, avec l'ombre de la planète sur les anneaux et l'ombre des anneaux sur la planète. C'est un système plat. Prochaine diapositive, voici un disque autour de l'étoile Bêta de la constellation du peintre, Bêta Pictoris, visible de l'hémisphère sud. Nous avons un disque de matière autour d'une étoile. C'est un système plat. Prochaine diapositive, voici une galaxie vue par la tranche. C'est un système plat. Donc dans l'univers, il y a beaucoup de systèmes plats. Des disques autour des trous noirs, des étoiles à neutrons, des anneaux autour des planètes. Et quand on dit système plat, c'est que ça a frotté. Et quand ça frotte, ça perd de l'énergie. Et ça s'aplatit plus dans la direction parallèle à l'axe de rotation que dans la direction perpendiculaire. Poincaré l'avait déjà vu, Henri Poincaré, pas Raymond, celui qui a fait Premier ministre, c'est qui était moins bon, mais Henri, très bon, ce mathématicien. Donc c'est le frottement qui fait qu'on fait un système plat. Donc si le système solaire est plat, si les planètes forment un système plat, c'est qu'il a existé auparavant un disque de matière. Parce qu'on n'a pas d'autre moyen de former toutes ces planètes dans le même plan, comme les satellites de Jupiter qui sont dans le même plan. Donc premier élément. Deuxième élément, prochaine diapositive, la composition chimique. Un petit clin d'œil. Si en sortant d'ici, vous voulez fabriquer un soleil, allez au supermarché, ou dans un petit commerçant, voici ce que vous devez acheter pour faire la recette. C'est-à-dire essentiellement hydrogène, de l'hélium dans les proportions indiquées sur la recette, et puis un peu d'oxygène, de carbone, de néon, d'azote, de magnésium, etc. Si vous voulez fabriquer la Terre, il faudrait acheter autre chose. L'oxygène, suivi du fer, du silicium, magnésium, etc. Si vous voulez fabriquer l'atmosphère de la Terre, ça c'est de l'azote, celui de l'oxygène, de l'argon, etc. Et si vous voulez fabriquer un homme, enfin il y a d'autres techniques, mais ça c'est notre cycle de conférence, eh bien il faudrait là acheter l'hydrogène, celui d'oxygène, carbone, etc. Et voyez le clin d'œil ici, c'est que la composition chimique d'un homme ressemble plus à celle du Soleil ou d'une étoile qu'à celle de la Terre ou son atmosphère. De là à dire qu'on est les enfants des étoiles, il n'y a qu'un pas qu'on peut franchir, mais qui est naturel, puisque les atomes qui nous composent ont un jour été fabriqués dans des étoiles qui, évidemment, ne sont pas le Soleil, et ont été ensuite distribués à l'extérieur. Prochaine diapositive. Alors, en gros, la quantité de deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène, pas le temps d'être dans les détails, est telle que le milieu dont nous sommes issus est un milieu froid, c'est-à-dire que nous n'avons jamais été un morceau de soleil qui a été arraché. C'est pour ça que la théorie anglaise n'est pas la bonne. Et nous le savons depuis les années 50, le système solaire s'est formé à partir de ce qui existait à la périphérie. Donc ça, c'est un autre fait. Prochaine diapositive. Alors, dans les faits, on cherche les petits corps, comme les comètes. Les comètes sont, pense-t-on, des morceaux de la nébuleuse primitive. Donc aller sur les comètes nous donne des informations. Prochaine diapositive. Il y a d'autres petits corps. Prochaine diapositive. Quand on sera à 24 diapos par seconde, ça sera le film, hein, vous inquiétez pas. On a ici le noyau de la comète de Halley, visité par une sonde européenne en 1986. Voici un noyau de comète. On croyait initialement que c'était une boule de neige un peu sale. C'est en fait un gros grain de poussière un peu humide, donc pas ce qu'on imaginait. Prochaine diapositive. Eh bien, nous avons des astéroïdes. Voici Ida et son petit satellite Dactyle. Petits morceaux de corps qui ressemblent à ces cailloux qui ont formé la Terre. C'est-à-dire que ce sont des petits corps comme ça qui, en se cognant mutuellement, ont ensuite formé la Terre. Et nous sommes issus de corps comme cela et nous avons des idées sur nos origines, en quelque sorte, grâce à l'exploration de ces petits corps. Prochaine diapositive, nous avons les météorites. Alors, ces météorites, ben, il suffit de se baisser pour les ramasser. Et dans ces météorites, il y a des inclusions, il y a des éléments, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais qui vous racontent ce qui s'est passé il y a 4,56 milliards d'années, quand le système solaire naissait. Nous reconstituons, grâce à ces météorites, les conditions physiques et chimiques qui régnaient à ce moment-là. Donc vous comprenez qu'on a des informations par tous les biais, en quelque sorte, en explorant partout dans le système solaire. Alors, prochaine diapositive. Alors, l'exploration du système solaire. Alors, là, si vous pouvez passer les diapositives en rafale, parce que là, je n'ai plus le temps de les commenter. Mercure. Vénus. Un volcan sur Vénus. L'homme sur la Lune. L'homme sur la Lune. Ensuite... un cratère sur la Terre, ensuite un cratère sur Mars. Regardez là, quand ça cognait, ça n'a pas fait boum, ça fait splash. Il y a de l'eau sur Mars, mais sous forme solide ou de vapeur d'eau. Prochaine diapositive, à nouveau Mars, voilà un lit de rivière. L'eau a coulé liquide dans le passé, donc il y avait de l'eau liquide. Donc il y a 3 milliards d'années, 3,8, quand la vie naissait sur Terre, il y avait de l'eau liquide sur Mars, donc les conditions étaient réunies pour que la vie apparaisse sur Mars. Donc la grande question, c'est, est-ce que la vie est apparue sur Mars à ce moment-là? Si oui, ça veut dire que dès que les conditions sont réunies, la vie apparaît, elle est probablement commune dans l'univers. Si la réponse est non, ça veut dire qu'il y a un maillon qui nous manque dans notre compréhension de l'origine de la vie et qu'il faut chercher un petit peu plus. Prochaine diapositive, Phobos, satellite de Mars. Prochaine diapositive. Ce qui est dommage, c'est que sur chacune, je pense à une petite blague à vous raconter, mais alors là, il y en a pour 3 heures. Jupiter et ses nuages, dans la composition chimique, nous avons des éléments sur le passé. Prochaine diapositive, une petite vision sur Neptune. Quand nous avons exploré Neptune en 89, eh bien, nous avons des taches sur Neptune qui sont en formation météorologique, qui ont duré pendant au moins 6 mois. Cette petite tache, on l'appelait scooter, parce qu'il y a plus vite que tout le monde et change de fil sans arrêt. Et puis, une météorologie très active sur Neptune. Prochaine diapositive, nous avons Io. On n'a rien compris quand on a vu ça au début. Ça ressemblait à une pizza ou une maladie pas avouable. Bon, des volcans. Ce qui est blanc, c'est de la glace. Ce qui est rouge, c'est du soufre. Ce qui est noir, c'est un volcan en activité. Et là, des volcans ou des panaches sont jusqu'à 300 km de hauteur. C'est vraiment un volcan impressionnant. Prochaine diapositive, Europe. On a déjà vu une image tout à l'heure avec de l'eau en dessous. Prochaine diapositive. Oui. J'accélère le temps. Ensuite, Ganymède. Une autoroute a été coupée en deux. Une tectonique importante. Prochaine diapositive. Callisto. Regardez, même âge que Ganymède. Voici le terrain le plus ancien du système solaire. Enfin, l'objet a le même âge, mais il est criblé de cratères. Pire que Verdun après la bataille. Bombardement, bombardement, bombardement. Donc, c'est une information. Nous avons été informés par du bombardement qui continue de nos jours, mais à un taux beaucoup plus petit. Prochaine diapositive. Encelade, petit satellite de Saturne, regardez les petites fractures, les coulées, activité, on ne comprend pas l'origine. Prochaine diapositive, Hyperion, un petit corps qui est très irrégulier, 300 km environ de dimension, ressemble à une cacahuète vue de côté, puis vue de dessus à ce machin affreux que mangent les Américains, là, un burger. Et puis qui a un mouvement irrégulier, qui a un mouvement chaotique. Les journées n'ont jamais la même durée chaque jour, l'axe de rotation n'est pas dans le même sens, donc pour donner rendez-vous, ça ne va pas être commode. Prochaine diapositive, petit satellite de Saturne avec des mouvements étonnants, des satellites sur la même orbite, ce qu'on n'aurait pas imaginé auparavant. Prochaine diapositive, Japet, une face toute sombre, une face très brillante, pourquoi on ne comprend pas. Prochaine diapositive, Titan, une photo très intéressante, on ne voit rien. Et on ne voit rien pourquoi ? Parce qu'il y a une atmosphère. Atmosphère d'azote comme sur Terre, pression au sol comme sur Terre. Donc Titan est un peu une Terre mise au congélateur. C'est pour ça que la priorité de la mission de Cassini, c'est d'aller vers Titan. Prochaine diapositive. Eh bien, voilà la fameuse falaise de 27 km. On est sur Miranda, autour d'Uranus, avec des paysages extraordinaires de ce petit corps de 500 km. Prochaine diapositive. C'est Triton, avec, regardez, une formation en forme de X. Ceux qui cherchent la planète X, c'est peut-être là, hein, c'est écrit dessus. Les formations noires, ce sont ces geysers dont je vous parlais, 8 km de haut. Un corps très étonnant, qui a la dimension de la Lune, mais qui est très actif. On est là à 4,5 milliards de kilomètres de la Terre. La température est de moins 240 degrés Celsius, donc prendre une petite laine, mais des paysages extraordinaires. Et vous voyez, j'ai essayé de vous donner en quelques mots très vite cette idée de diversité. Cette diversité, maintenant, il faut comprendre. Prochaine diapositive. Voilà les geysers, mais ça serait trop long. Les geysers, et voilà, hein, c'est ces petites choses-là. Prochaine diapositive. Les anneaux de Saturne avec un clair d'anneau dans la nuit de Saturne. Prochaine diapositive, les anneaux nous intéressent parce que les voici en fausse couleur, avec une grande variété. Prochaine diapositive. Nous avons ici des phénomènes où des satellites semblent confiner un anneau. Quand j'étais petit à l'école, on m'a appris que la gravitation était une force d'attraction, ce qui est vrai. Mais quand vous combinez gravitation, collision, phénomène de résonance, les corps se repoussent. Donc l'anneau extérieur, satellite extérieur repousse l'anneau vers l'intérieur, l'anneau intérieur repousse vers l'extérieur, vous confinez le matériau, et peut-être là on a une des clés pour comprendre l'origine de la Terre et des planètes. Prochaine diapositive, anneau d'Uranus, qui sont des minces cordes, en quelque sorte, très différentes de ceux de Saturne. Prochaine diapositive, anneau de Neptune, j'ai eu le bonheur de trouver avec William Hubbard, il y a déjà longtemps, il y a 16 ans, avec les trois arcs ici, que nous avons appelés liberté, égalité, fraternité, en français dans le texte. Je vous rappelle qu'ils ont été photographiés par Voyager en 89. En 89, il y a un mur qui tombait à Berlin, il y a des étudiants qui se révoltaient en Chine, il y a un afro-dictateur qui disparaissait au Chili, il n'a plus le pouvoir. Et voyez que le matériau est confiné non seulement radialement, mais aussi azimutalement. C'est comprendre de tels mécanismes qui nous permet d'essayer de comprendre les notions d'origine. Prochaine diapositive. Alors, on ne sait pas de quoi sont faits ces anneaux, des cailloux qui se cognent. Prochaine diapositive. Comme du coton qui se ferait et déferait, on ne sait pas. Prochaine diapositive. Elle n'est pas trop sérieuse là, c'est Gaston Lagaffe, avec ses tutoriels en retard, c'est pour m'excuser auprès de tous ceux à qui je n'arrive pas à répondre. Prochaine diapositive. Alors, la grande quête, et si j'ai quelques minutes pour vous dire simplement que maintenant, on cherche dans le système solaire quelle est l'origine, on le cherche à l'extérieur, et on regarde s'il n'y a pas ailleurs d'autres systèmes solaires. Voici la nébuleuse du crabe, ici, autour du Soleil, dans la galaxie. Il y a du gaz, c'est pas à partir du gaz qu'on forme un système solaire. Il y a des poussières, voici la fameuse tête de cheval ici. Et quand on cherche ça, comment s'y prend-on? Eh bien, voilà un endroit où naissent des étoiles. Nous sommes là près des piliers de l'aigle. Près des piliers de l'aigle, là où c'est très brillant, des étoiles sont en train de se former. Voici cette image en rayonnement visible. Et pour vous faire comprendre comment on s'y prend, voici en visible et voici en infrarouge. Vous retrouvez en gros la même structure, mais dans le détail, si vous le comparez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et la comparaison à différentes longueurs d'onde vous donne une information sur les conditions physiques qui règnent. Par exemple, ici, nous sommes dans la constellation d'Ophiuchus. Il y a les points blancs, il y a 100 points blancs en réalité, sont tous des étoiles en formation. Voici, tenez, on rentre dans les maternités qui sont les formations d'étoiles. Eh bien, voici ici un beau bébé. Hein, voici un bébé qui a deux fois la taille du système solaire. Le voici entre. Il manque le son. Si je mettais le son, ça ferait areux, areux. Les astronomes ont enfin réussi à. Commence à réussir à observer des étoiles en train de se former. Donc, ça devrait nous apprendre comment nous-mêmes on s'est formé. Et la grande leçon, c'est qu'il y a des jets de matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas effondrement d'étoiles sans qu'il y ait éjection de matière, un peu comme l'amour et la haine vont ensemble, l'effondrement et l'explosion vont ensemble. Donc ces jets de matière s'accompagnent, on voit ici un très beau jet de matière que l'on a sur 12 années-lumière, près d'une étoile jeune, et ces jets s'accompagnent de disques. Et ce qu'on a compris, c'est quand une étoile se formait, c'est une image à très mauvaise résolution, mais très intéressante, où vous avez un disque ici de matière, et ensuite un jet. Est-ce que ce disque est le berceau d'un futur système solaire? On ne le sait pas encore, mais c'est une question qu'on se pose. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Les galaxies se cognent. Voici un exemple que les astro-amateurs connaissent bien, de la galaxie des antennes, ici. Voici une photo prise à haute résolution par le télescope spatial. Vous avez là une partie bleue, une partie rouge. La partie bleue, c'est du gaz qui se cogne, donc des étoiles qui vont naître embouffées. Et vous savez que la galaxie d'Andromède, la fameuse galaxie d'Andromède que nous pouvons voir à l'œil nu dans le ciel, eh bien, rentrera en collision avec notre galaxie. À ce moment-là, nous verrons deux voies lactées. C'est une simulation faite par un collègue. Alors, il y en a pour un milliard d'années, donc vous pouvez ne pas me croire, mais enfin, si vous voulez, on attend ce temps-là, vous verrez. Et cette collision sera accompagnée d'une bouffée de naissance d'étoiles. Alors, on cherche, il y a d'autres planètes autour d'autres étoiles. Ce qu'on trouve pour l'instant sont un petit peu des gros Jupiter. C'est une situation qui ne ressemble pas du tout au système solaire, mais on n'a pas les moyens de voir une planète Terre. Simplement, ce que je voudrais vous indiquer, c'est qu'on a ici des anneaux, et que ces anneaux que l'on voit autour d'une étoile, eh bien, ont un bord net. Peut-être qu'il y a un objet qui les confine et un objet autour d'une planète. Autour d'une étoile, c'est une planète. Ce n'est plus un satellite comme autour de Saturne. Donc finalement, tout ça pour vous dire que, après tous ces faits, on essaie d'imaginer un scénario. Et ce scénario, il est le suivant. Au début, vous fragmentez du milieu interstellaire. Comment vous faites? On ne comprend pas. On ne sait pas. Donc on imagine que c'est comme ça. Vous fragmentez un morceau de matière. Et dans ce fragment, eh bien, le système tourne sur lui-même. S'aplatit, comme je vous l'ai dit, forme un disque, et dans ce disque, des planètes se forment. Et si je voulais résumer en quelques mots, parce que nous sommes limités par le temps, il y a 5 étapes. Première étape, vous avez un disque de gaz, parce qu'il y fait très chaud. L'étoile qui s'effondre sur elle-même dégage beaucoup de chaleur. Deuxième étape, l'étoile est un petit peu, comment dirais-je, elle est moins chaude, parce que l'effondrement est terminé. Donc on a des grains qui apparaissent, des petits grains qui font 1 cm, 1 mm, 5 cm. Et la composition chimique dépend de la distance au Soleil. Troisième étape, il y a des instabilités locales, donc on forme des petits corps que j'appellerais des planétésimaux. Quatrième étape, ces planétésimaux se cognent et forment des embryons. Un embryon, c'est 500 km, 1000 km. Cinquième étape, on forme les planètes que nous connaissons. Et il y a deux étapes totalement incomprises. C'est le tout début, comment on crée des fragments, et la fin, comment vous passez de l'embryon à la planète. Autrement dit, par nos théories, nous arrivons assez facilement à former un système solaire avec 40 planètes qui font 1000 km, mais moins facilement à faire 8 planètes qui sont comme Jupiter à 70 000 km ou comme la Terre. Donc il y a encore des problèmes posés. Il y a encore, comment gérer les difficultés? Il faut savoir que la Lune, qui est le corps le plus près et sur lequel nous avons le plus d'informations, est probablement celui dont l'origine est la plus mal connue. Alors finalement, on peut terminer par quelques diapositives. Et donc on peut remettre les diapositives, j'appuie sur le bon bouton. Donc finalement, jet et disque, c'est quelque chose de fondamental. Donc l'histoire, c'est une nébulosité au début, on les passe en rafale rapidement, oui, c'est le film, hein, et vous avez, quand je bouge les mains, les sous-titres. Hein. Donc prochaine diapositive, passons rapidement. Prochaine diapositive, je voudrais qu'on arrive, prochaine diapositive, on forme donc des planètes, prochaine diapositive, voilà, tenez, voilà, un tableau de Hartmann qui vous montre ce qui se passait au début, des poussières, des planétésimaux, tout ça se connaît en forme les planètes. Prochaine diapositive, une collision violente, c'est un divorce. Une collision douce, prochaine diapositive, c'est un mariage. Et d'une succession de mariages et divorces, on donnait naissance à la Terre et aux planètes. Prochaine diapositive, nous avons ici, vous voyez, des petits grains qui s'accumulent, des corps de plus en plus gros. Prochaine diapositive, de plus en plus gros. Le bombardement est intense. La température sur Terre au début est de 2000 degrés. Pas de continent, pas tout ce que nous connaissons maintenant. Donc la vie ne peut pas apparaître au tout début. Prochaine diapositive, des choses, vous voyez, qui peuvent être désagréables bon, sur l'ensemble de la planète, des collisions très fortes. Prochaine diapositive. Nous avons ce système qui se différencie. Au début, quand on a cogné, c'est homogène. Et puis, comme l'huile et le vinaigre, si vous laissez reposer, le lourd tombe au fond. C'est pour ça qu'il y a un noyau de fer, et puis un manteau plus léger, et une croûte encore plus légère. Prochaine diapositive, moins dense, c'est-à-dire. Eh bien, vous dégazez de méthane, de l'ammoniac, du gaz carbonique, de l'oxygène, l'hydrogène s'évade, d'autres éléments tombent. Vous avez une espèce de soupe primitive dans laquelle des molécules de plus en plus complexes se forment, d'où l'apparition de la vie. Prochaine diapositive. Vous avez donc les continents qui sont les endroits vieux, les parties plus jeunes qui sont le fond des océans. Prochaine diapositive. Et finalement, deux clins d'œil. Notre rêve qui était d'explorer le système solaire, il a eu lieu par robots interposés qui sont nos yeux et nos oreilles qui ont exploré les confins du système solaire. Le rêve de demain, ce sont des sondes qui partiraient visiter d'autres étoiles. Alors, 10 ans pour les concevoir, 10 ans pour les financer, 10 ans pour les construire, 5 ans pour aller près de Jupiter, 150 ans pour faire le voyage, 1 heure et demie pour être sur place, 20 ans pour envoyer le signal. Donc, vous voyez, en quelques siècles, nous aurions quelques photos des systèmes solaires extérieurs. Et dernière diapositive, c'est un clin d'œil sur notre histoire. Voici une trace de pas que mes collègues étudiants ceci interprètent comme une femme portant un bébé dans la corne de l'Afrique, de pied à tourner. Peut-être était-elle effrayée par un animal sauvage. Un petit peu plus tard, c'est une trace de pas sur la Lune. Entre ces deux traces de pas, à l'échelle de l'univers, si l'échelle de l'univers c'est un an, il s'est écoulé quelques secondes, et dans ces quelques secondes, c'est une aventure extraordinaire qui ne fait que commencer. Alors, je ne sais plus si on en est à 50 minutes ou pas, mais donc on peut jouer les prolongations après, pas besoin de faire une mi-temps d'ailleurs. Donc, j'étais venu pour répondre à vos questions, il y a eu peu de questions, et j'ai encore environ 200 documents à vous montrer, si vous le souhaitez. Hein, donc...
Qu'est-ce qui vous fait dire que nous ne sommes pas les seuls et qu'ailleurs, il y en a d'autres?
Nous ne sommes pas les seuls. C'est ça,
nous ne sommes pas les seuls et que la vie est ailleurs, puisque
bon,
vous l'avez dit au début.
Alors, à cette question, est-ce que nous sommes seuls ou non, le scientifique, quand même que je suis, ne peut que répondre, nous ne savons pas. C'est clair. Bon, alors maintenant, on peut avoir des sentiments ou des opinions. Alors, puisque je suis ici, je peux vous donner mon opinion. Mais mon opinion ne vaut que mon opinion, si je n'ai pas de preuves complètes. Simplement, l'argumentation est la suivante. Nos collègues biologistes ont tendance à dire, la vie, c'est très compliqué. Ça demande des conditions favorables qui durent suffisamment longtemps. Et donc, trouver les mêmes conditions ailleurs, c'est pas évident. Et donc, certains auraient tendance à penser que nous pourrions être seuls. Les astronomes dont je fais partie se rendent compte que dans notre galaxie, qui est bon notre milieu local, la Voie lactée que l'on voit par la tranche, il y a actuellement environ 1000 milliards d'étoiles. Je dis actuellement, des étoiles qui sont déjà mortes, d'autres qui ne sont pas encore nées. Des galaxies comme la nôtre, il y en a environ 1000 milliards. Ce qui fait que nous sommes capables d'observer en ce moment quelques milliers de milliards d'étoiles. Alors imaginez que le Soleil était l'endroit unique, où s'est formée la Terre unique, où s'est développée cette vie unique, est une vue un peu, je dirais, égocentrique. L'enfant à la naissance, il est seul au monde, il est le centre du monde. D'ailleurs, si vous ne le regardez pas gentiment à un moment donné, il crie très fort, parce qu'il dit « comment je ne suis plus le centre du monde ?» Puis un jour, il se rend compte qu'il y a d'autres enfants, qu'il y a d'autres villes, qu'il y a d'autres mamans, pas la sienne, mais d'autres mamans ailleurs, et qu'il y a d'autres gens. Et c'est un petit peu l'histoire de l'homme, qui a cru être le centre de l'univers, qui a compris qu'il y avait d'autres mondes. Et moi, je vous dis un sentiment. Maintenant, les autres, on ne les a pas rencontrés encore. Je veux dire, si on les avait rencontrés, nous, astronomes qui passons notre temps à regarder le ciel, y compris le jour quand on regarde le soleil, de nuit avec des satellites dans toutes les directions, on n'a jamais rien vu qui ressemble à un coucou. Hein, donc, moi, je me dis que s'ils étaient arrivés, on les aurait déjà vus. Enfin, en tout cas, moi, j'ai le champagne au frais pour les accueillir avec plaisir. Alors, maintenant, ce qu'il faut imaginer, c'est que la leçon de l'exploration du système solaire, et ça, je l'ai vécu. Quand j'étais petit à l'école, on m'a appris le système solaire, les mouvements, essentiellement. Nous ignorions tout sur la nature de ces objets. Et pour avoir vécu cette exploration, j'ai vu une diversité de phénomènes. Et je dirais, à la fin, devenant plus âgé, à la fin de cette exploration première, je disais, on s'attend toujours à l'inattendu, et on n'a jamais été déçu. Donc, si on voulait regarder ce qui se passe ailleurs, je pense qu'on aurait beaucoup d'inattendus. Regardez même, on vient de découvrir actuellement des formes de vie au fond des océans, ce qu'on appelle les sources hydrothermales, des formes de vie qu'on n'imaginait pas. On vous disait il n'y a pas longtemps, il faut le soleil pour la vie. Bah, il y a des machins au fond des océans, dans l'obscurité, qui se développent. Donc on peut faire preuve d'autant d'imagination qu'on le veut, et c'est plaisant, faire de la science-fiction, de la poésie, que sais-je. Mais ce qui est important, ce sont les faits. Et le seul argument que je donne pour l'instant, c'est nous n'avons pas d'informations, mais nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Nous n'en sommes qu'au seuil. Alors maintenant, si on découvrait d'autres formes de vie, il faut être prudent là aussi. C'est extraordinaire, on va communiquer avec eux. Mais alors attention, c'est que le coup de téléphone, ça dure longtemps, et y aller, c'est pire. Pourquoi ? Parce qu'on a par exemple, quand on a refait la surface du radiotélescope d'Arecibo, nous sommes là dans l'île de Porto Rico, c'est le plus grand radiotélescope du monde qui occupe la cavité naturelle d'un volcan, on a profité pour envoyer un petit message à d'autres. On s'est dit dans quelle direction on envoie. On a pris la mer d'Hercule. Pourquoi la mer d'Hercule ? Parce qu'il y a 1 million d'étoiles là. Donc il suffit de faire un signal, et là, 1 million d'étoiles, c'est bien une qui a une planète. Alors le message, on a mis des 0 et des 1. Alors si, et on a donné ce message à nos collègues astronomes. Alors il y en a un qui l'a compris. Enfin, supposons que les astronomes sont stupides et que là-bas, du côté de la mer d'Hercule, ils sont intelligents. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils remarquent que le nombre de 0 et 1 est le produit de deux nombres premiers. Donc ils font, le premier terme du produit, c'est le nombre de colonnes. Deuxième terme du produit, c'est le nombre de lignes. Ils remplacent le 0 par des blancs et les 1 par des noirs. Et qu'est-ce qu'ils voient apparaître ? Le Soleil par rapport au pulsar, les planètes autour du Soleil, la Terre qui est à tel endroit, la dimension de l'homme par rapport à un monsieur, une dame, enfin une image de télé qui dit bonjour. Bon, tendu de signal, la mer d'Hercule était à 24 000 années-lumière. Donc dans 24 000 ans, l'image va arriver. Alors, un, il faut qu'il regarde dans la bonne direction. S'il regarde à côté, il ne verra rien. Deux, sur la bonne longueur d'onde. Quand vous écoutez France Culture, ce n'est pas France Musique. Bon, donc la bonne longueur d'onde. Trois, il faut qu'il regarde pendant le bon moment. Le signal dure 3 minutes. Quatre, il faut qu'il enregistre. Cinq, il faut qu'il comprenne. Alors, supposez qu'ils aient le message. Oh, ils nous disent bonjour, on va leur répondre. Ils répondent, et dans 24 000 ans plus tard, en gros, on reçoit la réponse. Donc en 48 000 ans, on s'est dit bonjour. Bon, donc la profondeur de la discussion, et je veux dire, l'université de tous les savoirs aurait le temps d'enregistrer ses conférences. Hein, là, donc vous voyez, c'est pas si facile. Quant à y aller, le problème, nous avons une limitation qui est extrêmement forte, c'est qu'en physique, il y a des lois qui sont peu nombreuses peut-être, mais qui sont des lois qu'on ne surpasse pas, c'est-à-dire qu'on ne franchit pas la vitesse de la lumière. Moi, si vous me mettez à la vitesse de lumière, ma masse devient infinie, donc c'est un peu gênant. Hein. Eh bien, cette vitesse de lumière est une limitation. Donc, si vous déplacez une vitesse proche de la lumière, vous mettrez quand même, pour vous rendre quelque part, des milliers d'années. Et vous n'avez aucune source d'énergie. Donc, imaginez qu'on va y envoyer des hommes, c'est-à-dire qu'on les enferme dans un espèce de cylindre. Le voyage va durer. Alors, oui, il y a l'histoire du voyageur de Langevin, c'est-à-dire que vous vivez, plus vous allez vite, moins vous vivez. Donc, on peut s'arranger un peu. Mais quand même, le voyage va durer fort longtemps. Ceux qui vont arriver ne sont pas ceux qui partent. Donc il faudrait qu'ils se reproduisent un peu, mais pas trop, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour les quelques milliers d'années qui viennent, qu'ensuite, pour qu'ils nous renvoient le résultat, enfin bon, je sais bien qu'il y a quelquefois quelques personnes proches, quelques collègues, on aimerait bien qu'ils partent pour 10 000 ans, mais bon, mais je veux dire, vous voyez, c'est pas simple. Donc tout ça pour vous dire qu'on est au seuil d'une aventure extraordinaire, on va découvrir plein de choses, probablement des choses inattendues, mais il ne faut pas trop s'affoler sur les rencontres éventuelles, parce que les distances sont tellement colossales, le temps est tellement énorme, que ça nous conduit à beaucoup de modestie sur la place de l'homme qui est une petite poussière sur lui-même, un grain de poussière autour d'une étoile quelconque qui est dans la galaxie complètement perdue. Mais par contre, ça nous peut-être fait un petit peu réfléchir, et c'est ça que je trouve important le message de l'astronomie, c'est que pour moi l'astronomie, pour moi les découvertes qui sont en ce moment sont un élément de culture, et l'enseignement souvent a tendance à séparer les sciences et la littérature ou la musique ou que sais-je, et pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire que celui qui fait une œuvre de musicien ou de scientifique, c'est son imagination qui est essentielle, et ensuite la technique c'est autre chose. Et je crois que la culture est autant scientifique qu'artistique. Ça, c'est quelque chose de plaider, parce que je connais quelques personnes au ministère de la Culture, que j'aime beaucoup par ailleurs, pour qui, dès qu'on parle mathématiques, c'est comme si on prononçait une obscénité. Hein, parce que bon, bah, alors, c'est pas grave, on va les convaincre. Mais la culture scientifique est importante, et l'université de tous les savoirs, je crois, peut jouer un rôle important, justement. C'est un petit peu pour ça que j'ai fait cette conférence à cette direction. Enfin, je suis un peu long à la réponse de la question, mais j'attendais la suivante. C'est le journaliste qui remplit...
Est-il exact que dans un très lointain passé, la Lune était plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui et que ça a eu des conséquences sur le gigantisme des espèces ?
Alors, c'est tout à fait exact que la Lune était plus proche dans le passé et qu'elle sera plus loin dans le futur. C'est tout simplement l'effet de marée. Conséquences sur les espèces, je dirais non, mais on va redire deux mots. En gros, l'effet de marée est tel que la Lune et la Terre sont deux corps qui ont une certaine dimension. Et donc, la Terre attire plus fort la partie de la Lune plus proche de nous que la partie la plus lointaine. Donc, déforme la Lune en forme de ballon de rugby, comme la Lune nous déforme en ballon de rugby. Et même si vous n'en rendrez pas compte, toutes les 12 heures, nous faisons ça. Seulement, tout le monde fait ça en même temps, la Terre et nous-mêmes, ce qui fait qu'on n'a pas le « ok, pas de problème ». Mais on fait ça avec l'effet de marée. Une des conséquences, c'est que l'eau ne réagit pas comme la Terre, d'où les fameuses marées qu'on a en Bretagne ou ailleurs. Et donc, cet effet de marée, il faut dire que vous avez du frottement, donc vous perdez de l'énergie. Et puisque vous perdez de l'énergie, la rotation de la Terre se ralentit. Donc dans le passé, la Terre tournait sur elle-même plus lentement. Ça veut dire quoi ? Il y a 200 millions d'années, il y avait environ 400 jours par an, au lieu de 365. Et pareil, dans le futur, et vous savez que tous les matins, on se lève un peu plus tôt. Alors, ce n'est pas beaucoup remarqué, puisqu'en un siècle, on gagne 0,0002 secondes. Hein. Bon, ça, donc ce n'est pas beaucoup. Mais sur des millions ou centaines de millions d'années, ça commence à faire. Et la Lune s'éloigne de nous. Et ceci a été mesuré, c'est la théorie qui nous le donne, depuis Newton en gros, mais ça a été mesuré. Il y a un astronaute qui, avec l'émission Apollo, a mis un réflecteur sur la Lune, on tire au laser sur la Lune depuis la Terre, on envoie plein de photons en pleine forme, il en revient à demi un peu fatigué, et du temps d'aller-retour du photon, eh bien, on mesure la distance Terre-Lune, et on a vu que cet éloignement est de plusieurs centimètres par an, de plusieurs dizaines de centimètres par an, et on voit d'ailleurs en même temps les mouvements de la croûte terrestre, la Lune s'éloigne. Donc ça veut dire quoi ? Ça c'est intéressant, parce qu'il y a la Terre, la Lune et le Soleil. Donc dans le futur, la Lune s'éloigne. Et voyez, la Terre et la Lune, c'est un petit peu comme un vieux couple. Le temps passant, on s'éloigne un peu l'un de l'autre. Mais on s'aime bien quand même, mais on s'éloigne. Et le Soleil est brillant, est intéressant. Donc est-ce que le Soleil va nous capturer, notre compagne fidèle ? Eh bien, qu'il va se passer, cet éloignement va cesser quand la durée future du jour sera égale à la durée future du mois. Et le calcul est assez simple. Ça nous donne la durée future du jour égale à la durée future du mois égale 50 de nos jours actuels. Vous voyez, quand vous irez vous coucher le soir, c'est pour une bonne nuit. Hein ? Non. Pour le vous relever le matin, ça sera pour une journée un peu longue. Les 35 heures, je ne sais pas où on les mettra, mais enfin bon, c'est autre chose. Ça. Mais en gros, vous voyez, c'est... Donc en gros, la Lune sera synchrone avec la Terre. Et à ce moment-là, elle ne sera pas arrachée par le Soleil. Et donc, le couple va rester stable, donc on peut être tranquille. Et donc, cet éloignement de la Lune est commun, est bien connu, et l'effet de marée est courant dans tout le système solaire, est courant entre étoiles doubles, est courant entre galaxies, est un phénomène important dans l'univers. Alors, cela dit, sur l'autre partie de notre question, aucune conséquence sur les espèces, c'est le gigantisme. Aucune conséquence, ça n'a pas de problème. Donc, je vous ai parlé d'une phénomène astronomique qui, lui, est acquis.
Madame.
Bonsoir, j'aimerais savoir si vous avez une théorie.
Oui, d'accord.
Si vous avez une théorie expliquant l'existence et l'évolution éventuellement des arcs de matière autour de Neptune.
Ah, alors, en gros, l'idée est la suivante. Donc, d'abord, ces arcs de matière, bon, j'ai eu le bonheur de trouver ça avec William Hubbard, et ça a été une grande surprise. Et pour vous dire en un mot, et ça, si je vous raconte l'histoire, ce n'est pas pour raconter ma vie, mais vous montrer un petit peu comment en science on peut évoluer. Je veux dire, quand j'étais petit, alors il y a très longtemps, et bien, j'avais passé une thèse un jour. Et dans cette thèse, j'étais assez content parce que j'avais expliqué des phénomènes autour de Saturne. Et donc, le système universitaire m'a récompensé, on m'a donné un poste de professeur, donc j'étais content, tout allait bien. Puis on a envoyé une sonde vers Saturne. Et on a regardé ce qui se passait, et ce qu'on a observé de Saturne était le contraire de ce que j'avais mis dans ma thèse. Alors, l'université ne m'a pas mis à la porte. Vous savez que les astronomes, dans le passé, on leur coupait la tête s'ils ne prédisaient pas une éclipse et autres, on les brûlait, etc. Donc, on a une époque plus douce. Hein. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que métier de scientifique est un métier qui vous conduit à beaucoup d'humilité. Et ce n'est pas que je m'étais trompé dans ma thèse. C'est que simplement, j'avais traité un problème en le schématisant, en le simplifiant, et personne ne savait que la présence d'un satellite proche pouvait entraîner, disons, des perturbations. Donc nous avons compris à ce moment-là, quand Voyager est passé, qu'un satellite et un anneau à côté pouvaient se confiner, avoir des limites comme je voulais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben on me montre... Oulala, j'allais commenter l'image. Bon. Et donc il y a des limites fermes. Et alors, d'autre part, il y a des lois qui s'appellent les lois de Kepler. Les lois de Kepler vous expliquent que plus vous êtes près d'une planète, plus vous tournez vite. Donc si un étudiant m'avait dit à l'université en 1980, « Monsieur, il y a des arcs de matière autour d'une planète », je l'aurais immédiatement collé. en disant vous êtes sympathique, mais enfin c'est pas fait pour vous ce métier-là. Hein, donc je leur dis, mais le pauvre gamin, il n'a pas compris qu'un arc de matière, l'intérieur va aller plus vite que l'extérieur, ça va très vite se répandre. Donc nous pensions à cette époque que ce n'était pas possible qu'il y ait un arc. Or, nous avons observé à ce moment-là, les anneaux de Saturne ont été bien connus, ceux de Jupiter ont été trouvés par son Voyager, ceux d'Uranus ont été découverts par l'occultation d'une étoile. C'est-à-dire qu'une étoile passe derrière la planète, plus exactement c'est la planète qui passe devant, et le signal est interrompu avant, après, s'il y a des anneaux. Dans le cas d'Uranus, signal interrompu de manière symétrique. Les fameux anneaux d'Uranus ont été trouvés comme ça en 1977. Dans le cas de Neptune, campagne d'observation en 1968, campagne d'observation en 1980, campagne d'observation en 82, je me souviens en 82, 23 équipes ont observé sur place. J'avais même à l'époque obtenu l'avion que les ministres utilisent entre la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. On remplace la porte de secours par un télescope, on vole entre tel endroit, on observe l'occultation. Enfin, je vous raconte pas l'histoire, ça serait trop long. Hein, et donc, on observait de partout. Et aucune interruption de signal. Quand la planète est passée devant l'étoile. Donc, on a dit, il n'y a pas d'anneau autour de Neptune. Et même, il y a trois articles qui sont parus expliquant pourquoi il ne pouvait pas y avoir d'anneau autour de Neptune. Et en 1984, comme je suis un petit peu têtu, on a observé à nouveau, nous n'étions plus que deux, ce collègue William Hubbard et nous. Et on observe du Chili, et on voit le signal interrompu d'un côté de la planète et pas de l'autre. Donc on s'est dit, ah, est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce que ce n'est pas un oiseau qui est passé au-dessus du télescope? Est-ce que ce n'est pas un avion? Est-ce que ce n'est pas un nuage? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a donné un coup de coude dans le télescope et puis qui a dépointé? Moi, quand on observait, on interdisait d'utiliser l'ascenseur, par exemple. Ils ne comprenaient pas pour Braille, on ne pouvait pas aller dans l'ascenseur. Ben oui, c'est l'ascenseur, vous appuyez sur le bouton, ça fait une petite décharge électrique, clac, ça fait un anneau. Donc, alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a pris deux télescopes distants la très distance plusieurs centaines de mètres. Donc, il n'y avait pas la même alimentation en courant. Et le signal était le même sur les deux télescopes. Alors, un jour, timidement du tout, on a fait ça en juillet 84, on l'a annoncé aux collègues américains. On leur a dit, on a vu une interruption de signal d'un côté de la planète, pas de l'autre. Ils ont dit, oh, c'est français, ils ont encore fait une erreur, etc. Ils n'ont pas cru. Et le collègue William Hubbard, qui observait au même endroit, n'avait rien vu, lui. Exactement, il avait envoyé un étudiant à qui il avait dit, le signal dure une fraction de seconde. Il lui avait dit, tu notes sur la bande papier, tu notes 3-4 points par seconde. L'étudiant s'est trompé, il a noté un point toutes les 4 secondes. Donc l'occultation, il est passé à travers. Mais une bande magnétique enregistre ce signal. Et comme William Hubbard est quelqu'un qu'on se connaissait bien avant, il a voulu regarder ce magnétisme, ce qui se passait. Et il a trouvé une interruption à l'endroit où on a vu quelque chose. Alors il a vite pris son téléphone, il a oublié le décalage horaire entre Paris et l'Arizona, m'a appelé à 3h du matin en disant « À quelle heure est ton événement ?» Je dis « Attends, tu parles de quoi ?» on a regardé, nous étions à 80 km de distance au Chili, et la différence de temps entre les deux événements était le temps que met l'ombre de Neptune sur la Terre. Donc il y avait quelque chose d'un côté de Neptune et pas de l'autre. Donc il a fallu changer le programme d'observation de la sonde Voyager, avec beaucoup de réticence, je peux vous dire, pour observer ce qui se passait autour de Neptune. Et du coup, on a vu des arcs de matière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et on s'est dit, mais alors, comment ça fait, comment ça tient? Alors, fondamentalement, vous avez des collisions entre les particules, donc de la perte d'énergie, un système dont ce qu'on appelle le moment cinétique, donc disons la quantité de rotation est conservée, vous avez ce qu'on appelle des résonances, c'est-à-dire des commensurabilités entre le mouvement d'un satellite perturbateur et les particules, vous avez la gravitation, les perturbations, voilà les ingrédients qu'il faut mettre, et vous avez des modèles. Alors, l'un de mes étudiants qui était en thèse à l'époque, on a fait une petite simulation, et on arrive par simulation à faire des arcs de matière, par la théorie. Seulement, ce qu'il faut, c'est voir si les arcs sont à la bonne place par rapport aux satellites. Alors, on a émis une première théorie, on a regardé, ils n'étaient pas à la bonne place. Non, ils sont à la bonne place, mais ce n'était pas la bonne théorie. Alors, on a fait une seconde théorie. Puis enfin, une troisième théorie est surgie récemment, alors c'est un peu compliqué, mais qui est une résonance 42-43 avec un des satellites. Enfin, bon, c'est pire que les épicycles de Juan Sarobosco en 1277, hein, où il y en avait 27. Donc, moi, j'y croyais pas beaucoup. Et mes collègues y croyaient. Puis récemment, avec le télescope spatial, l'instrument infrarouge, on a réobservé ces arcs. Et ils ne sont pas à la place que prédit cette théorie. Donc, ça veut dire que les théoriciens, et je suis un théoricien, je veux le dire, ne manquent pas d'outils, ne manquent pas d'explications sur un fait, mais il faut sans arrêt, c'est ça que je voulais vous donner à cette conférence, c'est l'aller-retour observation. C'est-à-dire que l'observation suscite une théorie, la théorie doit être confrontée à un fait, et si elle ne marche pas, on doit l'abandonner et prendre autre chose. Et c'est un petit peu la leçon que je vous donne dans la vie de tous les jours. Moi, je rêverais d'un homme politique qui dirait « Votez pour moi, je me suis trompé tout le temps. » Je dirais au moins, il n'est pas... sans vous dire, j'ai raison, etc. Je vois une attitude où il faut beaucoup d'humilité. Alors, il ne faut pas non plus passer son temps à douter, sinon on ne fait rien. Mais il faut simplement, à la fois... Je veux dire, regarder des faits sans les interpréter n'a aucun intérêt. C'est une succession de recettes. Mais interpréter sans tenir compte des faits est extrêmement dangereux. Car tous les systèmes qui ont expliqué le monde sans tenir compte des faits, on finissait sur le bûcher, hein, ou dans des camps. Hein. Donc, c'est très dangereux. Donc c'est ça la leçon, c'est l'aller-retour. Et dans les arcs pour lesquels vous me posez une question, nous avons 4 théories disponibles et aucune des 4 ne marche bien. Faudra-t-il les adapter, les changer? Mais comprenez que cet échange d'énergie de moment cinétique conduit à un confinement de ces arcs. Et peut-être que ces arcs, d'ailleurs, je vous ai dit, on les appelait liberté, égalité, fraternité, malgré nos collègues américains qui trouvaient ça trop français. Je leur ai dit quoi, la liberté, trop français? Alors bon, ils ont accepté. Et puis on a trouvé un quatrième arc en avant. On s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va rajouter comme quatrième mot? Alors on a trouvé, on a utilisé le mot courage. C'est après tout une qualité pas si répandue que ça. Puisque ça donne, quand vous prenez les premières lettres, courage, liberté, égalité, fraternité, ça fait C-L-E-F. Donc la clé, en anglais, c'est la clé de musique. Donc vous voyez l'harmonie des sphères, le ciel c'est beau, etc. Et en français, c'est la clé ben, pour comprendre ce qui se passe. Donc aux Anglais, on laisse toujours la musique, et nous, on essaie de comprendre. Et donc, en gros, tout ça pour vous dire que, je n'ai pas une théorie, mais c'est que c'est une piste de recherche actuellement. Ce n'est pas très simple. Les outils théoriques qu'on a, ils ne sont pas assez sophistiqués pour l'instant, mais c'est une des pistes de recherche actuelles. Et c'est pour vous montrer combien le sujet est vivant et combien la science, c'est quelque chose de... On ne passe pas son temps à dire le contraire de ce qu'on dit la veille, mais combien ça s'améliore sans cesse, combien par approximation successive on améliore et combien par exploration à gauche, à droite, on améliore. Je suis épouvantablement long, mais attends, mais on m'a brimé tout à l'heure, hein, c'est pour ça.
Oui, non, mais...
Je vous en prie.
Oui, monsieur, je voudrais vous poser la question suivante. La relativité... Général nous explique que la rotation des corps les uns par rapport aux autres par une présentation, je dirais, géométrique. La géométrie de la relativité générale permet de comprendre la rotation des corps massifs les uns autour des autres. Mais d'où provient la rotation des corps célestes sur eux-mêmes et la régularité de cette rotation?
Bon, alors là, je vais répondre très simplement. Un, on n'a pas besoin de la relativité générale pour parler rotation. Mais parlons en termes simples. Vous formez une planète ou un satellite par un processus quelconque. Moi, je vous ai dit, c'est plutôt des corps qui vont s'accumuler. Mais quel que soit le processus, vous prenez des corps qui sont à une distance, qui s'accumulent, et tout ça va donner une planète. Chacun des corps a un mouvement. La somme de ces mouvements donne ce qu'on appelle en physique de l'énergie, et ce qu'on appelle le moment cinétique, donc j'aurais une quantité de rotation. Et donc, cet ensemble de corps, quand vous faites la somme des mouvements des corps, vous avez ce qu'on appelle un moment cinétique moyen, c'est-à-dire une quantité de rotation moyenne, qui est de la rotation de cet ensemble des corps autour d'un axe, même si cette rotation est très faible. Quand vous condensez tout ça, eh bien, la vitesse de rotation devient plus grande. C'est l'histoire du patineur. Quand il a les bras écartés, il tourne doucement, et quand il a les bras ramenés, il tourne très vite. Bon, j'ai pas de patin pour faire ça, mais enfin, vous connaissez, vous avez tous vu ça à la télévision. Et donc, une rotation rapide n'est que le résultat d'une contraction de l'objet, où vous augmentez la vitesse de rotation, mais vous gardez la quantité de rotation, c'est-à-dire le moment cinétique. Donc, ça veut simplement dire que s'il n'y avait pas de rotation du tout, ben, les corps se précipiteraient les uns sur les autres pour poum, faire un truc tout petit, une collision énorme. Et si vous tirez au sort des corps dans toutes les positions, vous n'avez aucune chance de trouver la somme des quantités de rotation égale à zéro. Vous trouverez un moment cinétique qui est peut-être plus epsilon, moins epsilon, mais vous trouverez une quantité qui n'est pas nulle. Donc, je dirais que la rotation est un phénomène naturel. C'est le contraire qui serait étonnant. Quand vous prenez très loin un ensemble de corps, que vous les rassemblez, eh bien, en conservant le moment cinétique, vous avez forcément quelque chose qui tourne, plus ou moins vite. Et pas besoin de la relativité générale, la bonne mécanique de Newton suffit largement. Donc tout tourne, les étoiles tournent, les galaxies tournent, les planètes tournent, les satellites tournent. Et c'est normal. C'est si ça ne tournait pas que ça sera normal, ça ne serait pas stable.
Oui, s'il vous plaît, je voudrais savoir pourquoi Pluton a été si difficile à découvrir, quel est son intérêt et quand sait-on?
Ah d'accord. Alors sur Pluton, je vais faire un petit clin d'œil. Les planètes, vous savez que six planètes étaient connues de l'Antiquité, c'est-à-dire la Terre et les cinq autres. Uranus, vous connaissez l'histoire, c'était un musicien professionnel et qui était astronome amateur, il s'appelait Herschel, qui a trouvé un objet avec une lunette d'amateur à l'époque, enfin une belle lunette quand même, et cet objet a cru que c'était une comète. Et quelqu'un qui était pas mauvais en mathématiques, qui s'appelait Gauss, a fait le calcul, c'était une planète, c'était Uranus. Neptune, vous en connaissez l'histoire, c'est à l'Observatoire de Paris, Le Verrier, sur une idée d'Arago, qui montre que Uranus est perturbé par quelque chose, qui s'était fâché avec tous ses collègues français, donc qui écrit à Berlin, un collègue allemand, qui regarde dans la bonne direction, il trouve Neptune. Donc, Arago a cette belle phrase, « Monsieur Le Verrier a trouvé la planète Neptune au bout de sa plume. » C'est par un calcul. Enfin, le calcul, Le Verrier a créé les équations, et l'ordinateur de l'époque, c'était 12 dames qui étaient à la cave, je m'en parle, à la cave de l'observatoire, et qui pendant 2 ans fait des calculs. C'est ça l'ordinateur de l'époque. Maintenant, les dames sont en surface et ont des ordinateurs. Ça, c'était... Et donc, on a cherché une autre planète. Et on a trouvé Pluton. Alors, attention, Pluton, on l'a imaginé. Quand vous regardez les perturbations d'Uranus, Neptune n'explique pas complètement toutes ces perturbations. On a cherché s'il n'y a pas une autre planète, on n'a pas trouvé. Et on l'a trouvé en fait par hasard, plus ou moins, Pluton. Je veux dire par là que là, Uranus, on est en fin 18e, Neptune, on est 1848, si mes souvenirs sont bons, Pluton, 1930. Et donc, comment on a fait? On a regardé, vous prenez deux photos à 6 mois d'intervalle, 6 mois, la Terre a fait un demi-tour autour du Soleil. Et vous prenez une photo du champ du ciel et vous prenez un miroir. Et avec le miroir, faites tac-tac. Donc les deux photos se superposent et vous regardez si quelque chose a bougé. Alors il y a un certain nombre d'astronomes qui ont fait tac-tac pendant un certain nombre de mois, puis ils étaient un peu fatigués, ils ont arrêté. Et on a pris donc un jeune, 23 ans, fermier du Middle West, costaud, qui a fait tac-tac pendant très longtemps. Il a vu quelque chose qui bougeait, c'était Pluton. Et alors il était à la grande jalousie de ceux qui sortaient de Harvard, de Caltech, c'était un fermier qui avait trouvé ça. Bon, il a trouvé Pluton. Mais quand on regarde de près, Pluton, on appelle ça une planète. Moi, j'ai pas envie d'appeler ça une planète. Parce que Pluton, sa masse, c'est en fait extrêmement faible. Maintenant qu'on connaît un peu mieux, c'est un corps tout petit. Et à mon avis, Pluton est simplement, de la même manière que Cérès est le plus gros des astéroïdes, quand le 1er janvier 1801, on a trouvé l'astéroïde Cérès, on a cru qu'on a trouvé la planète manquante entre Mars et Jupiter. En fait, c'était qu'un astéroïde dont nous en connaissons maintenant plus de 10 000 exemplaires, il y en a probablement 400 000. Eh bien, aux confins du système solaire, au-delà de Neptune, il existe probablement des milliers de corps. C'est ce qu'on appelle la ceinture de Edgeworth-Kuiper, du nom des deux astronomes qui l'ont imaginé, et Pluton est le plus gros d'entre eux. D'ailleurs, Pluton n'est pas dans le plan de l'orbite des planètes, il est incliné de 17 degrés. Pluton est tout petit, c'est encore beaucoup plus petit que la Lune. Et donc, moi je pense que Pluton est le corps le plus gros. Simplement, il y a continuité entre comètes, astéroïdes et planètes. Alors le problème, c'est que ce sont les Anglais qui ont trouvé Uranus, les Français qui ont trouvé Neptune, et si on dit aux Américains qu'ils n'ont pas trouvé Pluton, ils sont encore un peu jeunes et susceptibles, donc il ne faut pas les embêter. En gros, je dirais plutôt, il y a 8 planètes dans le système solaire. Vous avez vu, il y en a 4 grosses, il y en a 4 internes, et par contre, il y a une foule de petits corps. Et Pluton est plutôt le plus... Alors actuellement, nous en sommes à plus d'une centaine de corps au-delà de Neptune, dont Pluton est le plus gros, et vous voyez bien qu'il y a continuité entre tous ces corps. Et d'ailleurs, la distinction planète-astéroïde est un petit peu subtile. Simplement, comprenez que dans ce disque, où il y a eu ces phénomènes que je vous ai énumérés à toute vitesse, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, eh bien, il reste des débris, il reste des astéroïdes, il reste des comètes, il reste un tas de corps, et de tailles variées, diverses. Et c'est ça, Pluton. Et donc, l'idée de chercher la dixième planète, eh bien, en fait, on a trouvé la millième, la deux millième, la dix millième, vous voyez. Et quand Tombeau a continué à faire tac-tac pour trouver Pluton, il l'a fait pendant le reste de sa vie. Et pendant le reste de sa vie, il peut vous dire qu'il n'y a pas de planète comme Neptune jusqu'à 240 fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire 240 fois 150 millions de kilomètres. Et il peut vous dire, alors hors du plan de l'écliptique, il n'a pas eu le temps de faire toute la sphère céleste, évidemment, mais probablement qu'il n'y a pas de corps de la taille de Neptune au-delà. Et que, d'ailleurs, ce sont des éléments très importants. Là, je n'ai pas eu le temps de le mentionner, mais puisque vous me parlez de ces petits corps, comment se fait-il qu'on n'ait pas formé une planète entre Mars et Jupiter? Comment se fait-il qu'il y ait des petits corps là de Neptune? Et donc, certains imaginent qu'on a formé Jupiter très tôt, donc par une technique un peu différente de ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui, du coup, a empêché la formation d'une planète massive au-delà de Mars. D'ailleurs, la planète Mars elle-même est un peu un avorton. Pas été réussi à la naissance, celui-là. Et donc, plus petite que la Terre. Et donc, peut-être, certaines grosses planètes se formant avant ont dispersé des petits corps, ont perturbé le milieu environnant et ont empêché la formation d'une plus grosse planète. Et ça a peut-être été le cas de Jupiter, de Neptune, etc. Et ça explique pourquoi il n'y a pas de grosses planètes plus loin. Mais tout ceci sont des pistes de recherche, vous voyez. Rappelez-vous quand même, je rappelle, 1900, il y a seulement un siècle, les étoiles, on ne savait pas pourquoi elles brillaient. Les planètes, c'était des points de lumière. Les galaxies, on ignorait l'existence. 100 ans plus tard, on a compris pourquoi les étoiles brillaient. Les planètes, on les explore les unes après les autres. Et les galaxies, nous en voyons des milliards. Donc, quel progrès en 100 ans. Et je crois que c'est un bouleversement des connaissances qu'il faut intégrer dans notre culture, dans nos connaissances, et qui mettra un certain temps.
Monsieur.
Oui, oui, bonsoir.
Bonsoir.
On a montré récemment que les orbites du système, enfin des planètes, étaient chaotiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît?
Bon, alors attention aussi. Une des grandes questions qu'on a posées, c'est la stabilité du système solaire. À partir du moment où vous écrivez les équations de Newton, vous avez la force en 1 sur R2, eh bien la grande question, est-ce qu'un système formé d'un soleil et de 8 ou 9 planètes est stable ou non? Et mathématiquement parlant, c'est-à-dire en écrivant des équations avec une preuve mathématique, nous ne sommes pas capables de répondre à cette question. Donc tout ce qu'on peut faire sont des simulations numériques, sont des théories, sont des approximations. Alors, Laplace s'est posé le problème, Lagrange, un certain nombre de grands mathématiciens se sont posé le problème si le système solaire était ou non stable. Et évidemment, on n'a pas la réponse. Pour une raison très simple, c'est que nous, le problème des N-corps, c'est-à-dire les corps s'attirent en raison inverse du carré de la distance, l'accélération donc est proportionnelle à F égale M gamma, etc. Eh bien, en gros, N-corps est décrit par 6N équations. Donc si vous avez deux corps, ça fait 12 équations, mais on trouve ce qu'on appelle 12 intégrales premières, donc le problème est résolu selon la loi de Kepler. Par contre, trois corps, ça fait 18 équations, moins 12 intégrales premières, ça fait une équation de sixième ordre, dont on n'a pas une solution mathématique générale. Et je ne parle pas un million de corps, encore moins. Donc le système solaire n'a pas de solution mathématique quant à sa stabilité. Alors depuis une période assez récente, je parle de fin 60, début 70, on s'est mis à étudier ce qu'on appelle les phénomènes du chaos, qui, en fait, en reprenant des idées d'Henri Poincaré, et simplement en utilisant des simulations numériques. Et un des pionniers dans cette affaire, c'est Michel Hénon, qui a été mon patron de thèse. En général, il paraît qu'on se fâche avec son patron de thèse, mais moi, je ne dois pas être normal. Je l'admire toujours autant. Il a été un des pionniers dans cette étude du chaos. C'est lui qui a trouvé les fameux attracteurs étranges, etc. Eh bien, ce chaos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne la position de la Terre à un instant donné, et si je fais varier cette position de 15 mètres, suis-je capable de prédire la position de la Terre dans 5 millions, 10 millions ou 20 millions d'années? Et en fait, ce qu'on démontre, c'est que si je fais bouger la position de la Terre de 15 mètres, ce qui n'est rien, on connaît même pas sa position à cette précision-là, eh bien l'incertitude sur le résultat au bout d'un certain nombre de dizaines de millions d'années est pratiquement de la taille du système solaire. Alors ça ne veut pas dire que le système solaire est chaotique, vous comprenez? Ça veut dire que si on fait bouger un petit peu, il peut se retrouver là ou là. Et ça ne veut pas dire qu'elle va se retrouver là ou là. Ça veut dire que c'est une possibilité, comme le fait qu'elle n'ait pas bougé. Attention. Et alors, quand on fait d'autres études, Jacques Lactard en particulier a fait ce genre de simulation, on trouve que si on met plus de 8 planètes, ou plus de 9, hein, 8 planètes à l'intérieur, c'est-à-dire si vous mettez Mercure, Vénus, la Terre, Mars, vous en rajoutez une autre. Alors, le système devient beaucoup plus chaotique, et en gros, il y a un objet qui est évacué. Donc, on a le sentiment que le système solaire est plein. Plein au sens où si vous rajoutiez une autre planète, il y en a une qui partirait. Pas forcément celle que vous avez rajoutée, peut-être une de celles qui est là. Mais on a rempli tout l'espace disponible du point de vue dynamique, j'entends. Donc ce qu'on va appeler chaotique, c'est un ensemble de solutions possibles, et pas du tout un comportement chaotique du système. Et donc il semble bien que quant aux solutions possibles du mouvement dans le système solaire, eh bien effectivement les solutions chaotiques, au sens où je les décris là, sont les bonnes solutions. Ce qui ne veut pas dire que la Terre va exploser demain. Et vous savez qu'un aspect aussi des choses, c'est que la Lune étant présente, eh bien certains pensent que la présence de la Lune a stabilisé l'inclinaison de la Terre. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la Lune, l'inclinaison de la Terre aurait pu varier énormément au cours des âges. Et si l'inclinaison de la Terre avait varié au cours des âges, 80 degrés, 10 degrés, 40 degrés, etc., les saisons étaient extrêmement contrastées, la variation de température sur la Terre aurait été énorme, et peut-être que la vie ne serait pas apparue. Et peut-être que finalement, si la vie est apparue sur Terre, c'est que son inclinaison a été stabilisée par la présence de la Lune. Et du coup, il n'y a pas eu de trop grande variation, et du coup, il y a les bonnes conditions de température et de pression constantes pour que l'évolution des espèces puisse avoir lieu. Donc vous voyez que combien il y a un lien entre ces problèmes mathématiques, le chaos, la vie, etc. Combien toute cette science est liée en quelque sorte. Et donc ma réponse à votre question, c'est oui, le système solaire est chaotique, au sens où il y a beaucoup de solutions possibles. Mais il est fort stable, ne vous inquiétez pas, on ne va pas partir demain encore.
Hein, on va prendre encore deux questions, une ici et puis une monsieur là.
Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous avez parlé des problèmes liés à la mécanique pour former le système solaire. Et notamment, vous avez dit qu'il y avait une inconnue au début de la formation, à savoir qu'il fallait une fluctuation de densité. C'est bien ça. Oui. Mais n'est-il pas possible, enfin moi j'ai entendu par ailleurs, que par exemple une supernova qui explose, donc produit un espèce de vent, et que ce vent va comprimer des nuages interstellaires, et qui va donc pouvoir générer ces fluctuations de densité. Qu'en est-il exactement?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de causes possibles à des fluctuations de densité. Celle que vous donnez, quand une supernova explose, ça fait une onde de choc dans le milieu interstellaire, et bien ça va comprimer le milieu en avant, cette onde se déplace, et vous pouvez très bien former un globule de matière qui va donner un futur système solaire. D'ailleurs, en regardant la méthode d'Allende que je vous ai montrée tout à l'heure, certains ont imaginé que les inclusions, en particulier la présence de magnésium 26 en excès dans cette météorite, est expliquée par une supernova, ce qui peut être vrai, mais que cette supernova était la maman du système solaire. En fait, on se rend compte que s'il y a une supernova, parce que ça se discute encore, c'était plutôt une dame en visite à la maternité et pas la maman. Je veux dire par là, donc, une supernova, une explosion peut effectivement créer un système solaire. Mais deux galaxies en rentrant en collision peuvent créer un système solaire aussi. Tenez, si vous aviez ici... non, mais ça fait rien, c'est pas... Voilà, tenez, voici la fameuse galaxie de la route Charette. Hein. Eh bien, vous avez ici une galaxie avec une partie très bleue, les étoiles se forment, il y a une collision... un noyau qui était séparé, et donc une collision de deux galaxies a conduit à cette espèce de galaxie très étonnante, et là où il y a condensation, il y a des étoiles qui peuvent se former. Donc, explosion de supernova, collision de galaxies, onde de densité en tournant dans les galaxies, fluctuation naturelle, dans un milieu, c'est normal que la densité varie un petit peu. Tout ça, ça peut être des points de départ de la formation des étoiles. Donc, on n'est pas embêté pour les former, on en a même presque trop de causes, il y a beaucoup de raisons. Et la supernova que vous citez est une cause possible, parmi d'autres. Hein, mais voilà, parmi d'autres, c'est tout.
Monsieur, dernière question. Attendez, derrière, oui, on ne le voit pas. On ne voit pas, monsieur.
Oui, vous avez parlé donc, de Pluton. Enfin, donc, il est incliné de 17 degrés du plan écliptique. Mais est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il est aussi elliptique en croisant même l'orbite de Neptune.
Oui, alors donc Pluton est un objet qui a une orbite inclinée de 17 degrés et qui est elliptique. C'est exactement comme les astéroïdes. Ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes, en fait, il n'y a pas de ceinture. Vous voyez quelquefois des dessins animés qui vous montrent des objets qui passent près de vous quand vous traversez la ceinture, c'est totalement irréaliste. Il y a des petits corps partout dans le système solaire. Je dis bien partout. Entre le Soleil et Mercure, entre Mercure et Vénus, entre Vénus et la Terre, entre la Terre et Mars, entre Mars et Jupiter, au-delà de Neptune. Ces petits corps sont perturbés par les grosses planètes. Alors, du côté de la Terre ou de Mars ou de Vénus, il y a toujours un jour où on croise l'orbite, on cogne, on les élimine comme ça, par collision. Du côté, là où il y a de la place, c'est-à-dire entre Mars et Jupiter d'une part et au-delà de Neptune d'autre part, eh bien il y a plus de corps. Mais tous ces corps de petite masse sont fortement perturbés par des passages proches de grosses planètes. Donc la ceinture des astéroïdes, par exemple, ce qu'on appelle la ceinture, est un ensemble d'objets qui a une inclinaison moyenne de plus de 20 degrés. Ça fait 40 degrés au total, 20 degrés de part et d'autre du plan de l'écliptique, du plan de l'orbite des planètes. Et les astéroïdes ont des orbites elliptiques et inclinées. Et donc Pluton, comme les astéroïdes, comme les objets de la ceinture d'Edgeworth-Kuiper, ont des orbites elliptiques et inclinées. Et vous savez qu'en ce moment, la planète la plus éloignée du système solaire n'est pas Pluton, mais Neptune. Neptune est un petit peu plus loin de nous, avec son satellite Triton. Entre parenthèses d'ailleurs, puisque je vais parler de Triton, quand nous regardons les caractéristiques physiques de Pluton et celles de Triton, nous trouvons une grande similarité. Et donc pour l'instant, nous pensons que si nous prenons des photos de Pluton, ce qui sera peut-être fait en 2012, si une mission qui s'appelle Pluton Express, il faut partir en 2003, donc il faut se dépêcher, et part vers Pluton, et vous aurez en 2012 des images, eh bien, on imagine que Pluton ressemble à Triton. Alors, compte tenu des paris dont je vous parlais jusqu'à présent, vous vous souvenez, l'image de Triton que vous avez vu tout à l'heure, donc Pluton ressemble à je ne sais pas quoi, sauf à Triton, puisque c'est ça qu'on a parié. Donc, Pluton incliné, normal, Pluton elliptique, normal, comme les astéroïdes, à cause des perturbations des grosses planètes. Merci. D'autres questions? Bon. Ah, y a une question. Ah, la loi de Titus Burg. Ah ben, ça sera ma dernière histoire. Alors, un mot, je vais essayer d'être bref. C'est une loi qui est très importante historiquement, mais ce n'est pas une loi. Parce que les lois de physique ne sont pas comme les lois de grammaire, elles ne souffrent pas d'exceptions. Alors, la loi de Titus Burg, s'appliquant à 9 corps, a 4 exceptions, ce qui fait beaucoup. Hein, si la gravitation, je vous disais, ben, écoutez, un coup, on est là, puis un coup, on part en l'air, on dirait, la loi, elle n'est pas terrible. Alors, Titus Burg, c'est quoi? C'est un livre qui a été écrit par un vulgarisateur, en français, dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus si ça s'appelait Chevalet ou Bonnet, mais c'est quelqu'un qui vendait beaucoup de bouquins, il passait à la télé, etc. Je pense qu'il avait une barbe ou pas, mais c'était quelqu'un de très connu. Et alors, il écrit un bouquin en français, qui a un grand succès, il est traduit en allemand. Et le traducteur allemand s'appelait Titus. Et c'est un traducteur étonnant, il ne traduisait pas ce qui lui déplaisait, et il rajoutait, et il rajoutait des paragraphes de son cru, sans dire note du traducteur. Et donc, dans le bouquin de, je ne sais plus si ça s'appelait Bonnet ou Chevalet, de ce français qui avait écrit un très bon bouquin de vulgarisation, la version allemande contient 20 lignes qui disent que les planètes sont une progression géométrique en descendant du Soleil. Bon, c'est passé. Uranus aussi. Uranus n'était pas connu. Il parlait juste des planètes connues. Et puis, il y a un nommé Bode qui a écrit un article qui reprenait exactement les 20 lignes de Titus, sans le dire. Vous connaissez l'histoire des singes dactylographes. Hein, c'est combien faut-il prendre de singes qui tapent au hasard sur une machine à écrire pour que l'un d'entre eux écrive les œuvres complètes de Shakespeare? Hein? Eh bien, la réponse est connue, c'est il faut beaucoup de singes. Hein? Faut beaucoup. Donc, peut-être par hasard, Bode a écrit les mêmes 20 lignes que Titus. Et là, il a donné une publicité énorme. Et alors, ce qui s'est passé, donc là, on est fin 18e. Très peu de temps après, on découvre Uranus. Et Uranus est à la bonne distance prédite par cette loi. Alors là, un succès fantastique. Donc, on s'est mis à chercher la planète manquante, parce qu'il manquait dans cette loi une planète entre Mars et Jupiter. Entre Mars et Jupiter, je dis bien, il manquait une planète. Et le 1er janvier 1801, un monsieur qui avait été le concierge de l'observatoire, qui en est devenu le directeur, donc très bel exemple d'ascension sociale, qui s'appelait Piazzi, eh bien, découvre un astéroïde qu'il appelle Cérès. On dit, ah, là, voilà la planète manquante. Puis là, on était un peu déçus, parce que Cérès, c'est petit. Puis dans la foulée, on trouve Vesta, Pallas, Junon, plein d'autres astéroïdes. Donc, il y a plein d'astéroïdes. Alors, on s'est dit, et ça traîne encore dans des bouquins d'aujourd'hui. Vous savez, quand les gens copient le livre d'un autre qui a copié, ben, 2 siècles plus tard, on trouve les mêmes erreurs. Il y a des gens qui disent, il y a une planète qui a explosé. Il n'y a pas de planète qui a explosé entre Mars et Jupiter. Simplement, une planète qui ne s'est jamais formée. Alors, quand on a trouvé Neptune, quand le Verrier a calculé ses perturbations, il ignorait 2 choses. C'est la masse de Neptune et sa distance. Donc, il a pris comme hypothèse la distance donnée par la loi de Bode-Titus. Et cette hypothèse est fausse d'un facteur 2. Mais du coup, ça donnait en gros la bonne direction quand même. Quand on a cherché Pluton, on était encouragé par la loi de Bode-Titus, mais qui ne marche pas du tout dans ce cas-là. Donc, en fait, elle ne marche pas pour Neptune, pour Mercure, pardon. Elle ne marche pas pour les astéroïdes. Elle ne marche pas pour Neptune. Pour Pluton, qui est une planète, ne marche pas non plus. Ça fait un peu trop d'exceptions, c'est quelle planète du système solaire. Mais historiquement, ça joue un grand rôle. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça, physiquement? Ça veut dire que vous formez les planètes par un processus quelconque. Moi, je vous ai dit par accumulation de petits corps. Et qu'en gros, chaque planète a ramassé le matériau qui était autour d'elle. Donc du coup, si vous formiez deux planètes côte à côte, eh bien, elles auraient mangé au même garde-à-manger, en quelque sorte. Il n'y a pas eu assez de matériaux. Donc il y a une certaine distance entre les planètes. Et à partir du moment où vous mettez un soleil central et une certaine distance entre chaque objet, vous trouvez toujours une relation mathématique avec la multiplication, la division, l'addition, petit a plus petit b, 2 puissance n, etc., et multiplié par petit c, qui marchera à condition de bien choisir a, b et c. Et ça, c'est ce qu'on appelle la numérologie. Ce qui est amusant, mais en aucun cas scientifique. Non, je n'oublie pas, ça serait trop long, mais ça, bon, ça sera une autre fois, hein, quand les conférences seront enfin d'une longueur correcte, hein, parce que là, je me sens un peu... Bon, c'est le... Bon, je m'arrête. Hein.